Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterfoot, la 19e nuit de l'After qui démarre en direct des États-Unis, en direct de notre studio new-yorkais. L'After est sur RMC, l'After est sur la chaîne YouTube, évidemment de l'Afterfoot. On est là jusqu'à 5h du matin avec la suite des 16e de finale de la Coupe du Monde dans l'After, toujours première radio de France, avec Daniel Riolo qui est avec moi. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Florent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous.
Fabrice Hawkins également avec nous. Salut Fabrice.
Salut Gilbert, salut à tous.
Fabrice qui suit l'équipe de France. Comme l'équipe de France est à New York, Fabrice est à New York.
Et c'est un plaisir.
C'est un syllogisme.
Où pourrait être le faucon si ce n'est au plus près de l'événement?
Bien sûr.
Et là, surtout, il y a les proies qui sont en dessous. Et lui, il rôde au-dessus et il attaque.
Surtout au 14e étage. Le faucon vole à 42 mètres minimum.
Et oui, nous sommes au 14e étage avec vue magnifique. Allez sur la chaîne YouTube, vue sur Manhattan. Et derrière nous, à 21h30, tout à l'heure, il y aura l'actualité de l'équipe de France. Justement, avec toi, Fabrice, à la veille de son match face à la Suède. Nous allons dans quelques instants analyser la qualif du Brésil demain face au Japon. Et puis, d'ici une heure environ, un peu plus, vous saurez tout du match Allemagne-Paraguay qui démarre tout à l'heure à 22h30. Et oui, parce qu'il y a deux matchs à venir. Ce soir et cette nuit, Allemagne-Paraguay à 22h30 et Pays-Bas-Maroc à 3h du matin, cette nuit. Voilà pour le programme à venir jusqu'à 5h.
Dans les petites news du jour, nous n'oublions pas, pardonne-moi, une petite parenthèse, la loi sur la réforme de la gouvernance du football et du sport français a été votée il y a 10 minutes.
Donc elle a été...
Moment très important.
Donc oui,
elle
a été validée,
adoptée. Une immense majorité.
Adoptée.
Immense majorité. Maintenant, c'est commission mixte paritaire pour 2-3 amendements à revoir et c'est bon. Énorme gifle pour Vincent Labrune et ses amis bien identifiés qu'on connaît tous.
Le Brésil se qualifie 2-1 face au Japon. Les gars, but marqué dans les ultimes secondes par les Brésiliens, par Martinelli à la 96e. On va pouvoir entendre peut-être Carlo Ancelotti dans quelques instants, sa première réaction en direct. C'était un match plutôt sympa avec des Japonais qui... tout tenté jusqu'au bout. Enfin, ils ont joué leur jeu, mais le Brésilien était plus fort. Même les stats sont en leur faveur.
Ouais, les stats,
bon, c'est logique au final.
Très logique au final, parce que c'est un Japon, certes, moi, que j'aime beaucoup, mais qui est courageux et mais très limité quand même. 70-30 en possession, 17 occasions à 3, 19 tirs à 5, 7 tirs cadrés à 2. Rien à dire, le Brésil méritait sa victoire. Mais ils étaient partis pour un truc bien plus galère. Et il y a quand même pas mal de soucis qui étaient identifiés, qui sont remontés, notamment au milieu de terrain. Après le changement de Carlo quand même de Carlo Ancelotti à la mi-temps en faisant sortir un milieu de terrain a fait aussi un peu la diff. Donc victoire logique au final, quand même, victoire logique.
Puisque tu parles de Carlo Ancelotti, il y a quand même eu un moment dans le match.
Ah tiens, Ancelotti en direct, on va traduire en direct.
Jugamos bien, merecemos ganar. También se
sobre español.
Encajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia.
Donc on a été patient.
L'équipe était bien, también.
L'équipe était bien.
La première parte, le jeu fue bonito, forçamos.
Le jeu était très bien pour la mi-temps.
La seconde
partie, bonito, c'est pas très bien, c'est pas mal.
Você mantém o Casemiro, ele faz o gol, você coloca o Martinelli, ele faz o gol.
De la 14e.
Un groupe complet qui aide la sélection brésilienne.
Temos muitos recursos.
No banco, no on a campo, beaucoup de ressources sur le banc.
C'est bon que les joueurs individuellement sont à un bon niveau. Ils travaillent.
Ils sont tous à un bon niveau.
Et comment est le Lucas Paquetá? Comment est le Casemiro?
On parle de Paquetá qui est blessé.
Je crois qu'on peut s'en passer d'explication. Il mélange trois langues et c'est un peu dur.
Ah oui, il y a du muito. Ouais, effectivement, il mélange toutes les langues.
Il fait un peu un mix d'italien et d'espagnol et de portugais.
Et la ultime, vous connaissez la torcida brasileira. Pourquoi le sim para o Hendrick et le non para o Neymar?
C'est bon, stop.
On écoute en coulisses si jamais il y a un petit. Attends, peut-être sur Neymar quand même.
Estava. Falei con ele, se não vamos a empatar o jogo. Entrava a minuto 60,
il serait rentré 65. S'il y avait eu match tenu et prolongation, il serait rentré.
Hemos empatado o jogo, não queria mudar a estrutura porque l'équipe tenait contrôle de jeu. Voilà,
il y avait une équipe à garder et donc je voulais garder cet équilibre jusqu'au bout. Voilà pourquoi il n'a pas fait rentrer Neymar.
Juste sur ce qu'il vient de dire et juste avant, quand il y a beaucoup de ressources sur le banc mais qui n'utilise pas Neymar et qui justifie ça, je pense qu'il va jongler avec tout ça. Il l'utilise quand même le moins possible. Il y avait quand même un money time dans lequel il ne l'a pas fait entrer, quoi qu'il en dise, et c'est quand même un message par rapport à ce qu'on avait vu au dernier match. Neymar n'est pas au niveau pour jouer.
Le scénario, elle donnait raison en l'occurrence.
Bien sûr, mais il n'a pas envie de le faire jouer, mais il est obligé de dire pour la Vox Populi brésilienne oui, bien sûr, il serait entré s'il y avait prolongue et tout, alors qu'en gros, Neymar, il n'en a pas besoin pour l'instant pour faire gagner le Brésil.
Ancelotti, sur le banc, c'est plutôt habituellement quelqu'un de serein. C'est en tout cas souvent une des qualités de management qu'on a mis en avant chez lui, de garder ce calme pour le transmettre à ses joueurs, même dans les situations critiques. Au début de la seconde période, j'ai vu sa tronche. La sérénité habituelle, je trouve, n'était pas forcément là à 100%. Le chewing-gum était en train de morfler bien comme il faut. Je pense qu'il a cru à un moment entrer dans une sorte de scénario un peu catastrophique avec le braquage, parce que ça aurait été un braquage si les Japonais l'avaient emporté. Je ne sais pas s'il a été totalement calme. Maintenant, il l'a été assez pour faire les bons changements. Et évidemment, Flo a parfaitement raison. Il n'y a rien à redire à la qualification du Brésil. Ça a été un match à sens unique. On est dans les 16e de finale que j'appelle déséquilibré. Ce match-là ne faisait pas partie des 6-7 que j'estime indécis sur 16. Le Brésil a gagné et c'est tout à fait logique. Et la Coupe du Monde du Brésil, parce que pour l'instant, ils n'ont joué, à part dans leur premier match contre le Maroc, ils n'ont joué personne. En revanche, là, dès l'8e, le vainqueur de Côte d'Ivoire-Norvège, là, d'un coup, puisqu'on parlait de tours et d'étages tout à l'heure, là, ils vont prendre 10 étages d'un coup, parce que ce sera pas du tout, la même histoire. Ce sera pas une équipe qui voudra attendre. Ce sera beaucoup plus solide, plus fort techniquement, plus fort physiquement. Ce sera plus fort à tous les niveaux. Et le Brésil va commencer sa Coupe du Monde en 8e de finale. Et sur ce qu'on voit là, je suis pas méga confiant quand même. Je sais pas si cette équipe peut monter en puissance. J'en sais rien. Le milieu de terrain, c'est toujours aussi peu convaincant à mes yeux. Devant, ça repose beaucoup sur ce que Vinicius peut faire dans l'élimination, la percussion.
Ou pas.
J'ai pas vu.
Enfin,
j'ai vu toujours un Matheus Cunha actif, mais bon, c'est pas non plus
limité.
Une vedette. Ryan, quasi, si c'est pas inexistant, très, très, très transparent.
Casper.
Donc en fait, ce qu'on dit du Brésil depuis le début, on pourrait le redire là, même après la qualification en 8e de finale.
On avait critiqué Casemiro après le premier match, rappelez-vous.
Et il est critiqué.
Là, il prend un carton à la 14e. Tu dis qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va le sortir ? Finalement, il égalise.
Oui, mais ça, d'accord. L'égalisation.
Plus paquet de très belle.
Mais après, son rôle à lui, au milieu de terrain, il fait une mauvaise première période sur la passe de Danilo qui a intercepté, qui amène au but japonais. C'est Casemiro qui est derrière. Donc il fait pas un des bons débuts de Coupe du Monde. T'as raison Gilbert. En fait, ou Daniel, pardon, on a les mêmes failles identifiées et rien, et il n'y a pas de raison que ces failles-là se rebouchent. Il n'y a pas de raison particulière. C'est pas comme quand un joueur revient de blessure ou revient à son meilleur niveau. Le vrai problème du Brésil, il est identifié. L'attaque qu'il a trouvée, c'est sans doute une des meilleures attaques là par rapport à son effectif actuel. Mais Ryan, qui est un jeune, qui n'a pas d'expérience, quand tu arrives dans les matchs comme ça importants, comme on disait, quand la pente s'élève, ça va être sans doute un peu juste. Donc, en fait, ce Brésil-là, il passe très juste contre un Japon faible. Parce qu'on avait vu un Brésil faible dès le début de la compétition, et on le sait pour son histoire récente. Et donc, ce sera effectivement très compliqué. C'est pas un Brésil, en gros, qui va aller au bout, pour faire simple.
Il manque du talent, Fabrice. Concrètement, et on l'a vu depuis le début de cette compétition, c'est pas le Brésil d'il y a encore quelques années. Hein, à toutes les lignes, il y a des joueurs qui sont pas mal, Gabriel, même Marquinhos, on voit Lucas Paqueta devant Vinicius, mais quand on regarde globalement les matchs et le contenu et ce que peuvent faire les joueurs ensemble, parce que c'est important aussi ce jeu ensemble, c'est insuffisant. Et clairement, je pense que quand ils vont tomber contre une équipe un petit peu plus costaude, ça risque d'être très compliqué. Dès le prochain tour, je crois qu'ils jouent contre la Norvège.
Côte d'Ivoire, pour moi,
ça va être très dur pour le Brésil. Et je voulais ajouter d'ailleurs que même s'ils ont gagné, ça reste quand même une victoire à l'arraché à la dernière minute. Et à mon sens, avant les demi-finales, je pense qu'on va avoir beaucoup de matchs comme ça où ça va être très 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 serré.
Et surtout, on en a quelques-uns qui sont, comme je disais tout à l'heure, déséquilibrés et qui peuvent avoir ce scénar-là. C'est-à-dire une équipe qui attaque tout le temps, une autre qui cherche à défendre. Maintenant, encore une fois, ils méritent largement de passer. La dernière action, à la 94e, il fallait avoir la lucidité et c'est Guimarães qui fait une passe somptueuse.
Qui est le meilleur au milieu d'ailleurs globalement depuis très le début belle, de la Coupe du Monde.
Très belle finition de Martinelli. On a vu une très belle action pour finir ce match qui était intéressant parce que le scénario a rendu intéressant, le faible a marqué, l'autre devait attaquer, donc c'est ça qui nous a tenu en éveil, en se disant « Ah, et si l'exploit venait ?» tout ça. Maintenant, on n'est pas dans un match où tu as une vraie opposition. C'est le gros contre le petit avec... comme quand on a les matchs de Coupe de France entre le gros et le faible, que peut-il se passer? Est-ce qu'il peut y avoir un braquage? Voilà.
Avec un très bon match de Suzuki, le gardien japonais, ce qui donc confirme, si tu veux, la sensation et de la chance. Parce qu'attention, avant d'avoir ce but à l'arrache,
c'est fiable, hein.
Ouais, Suzuki, c'est très fiable. Il y a rien à changer. Et c'est vrai que avant, il y a eu sauvetage sur la ligne, miraculeux. Il y a eu poteau, même s'il y avait parade de Suzuki en l'occurrence. Il y a quand même beaucoup, enfin, il y a eu des occasions. En plus, on peut pas dire que le Brésil a été atone. En revanche, c'est comme disait Fabrice, c'est pas tant dans le fait que cette équipe puisse ou pas marquer. Puisqu'on sait qu'avec Vinicius, elle peut marquer. On sait que même avec Hendrick, sur un exploit, ils peuvent marquer. C'est sur la qualité du jeu collectif. C'est sur ce qu'ils faisaient avant dans les lancements de jeu, notamment par les latéraux qui, historiquement, ont toujours été très forts au Brésil. Ça n'existe plus. Donc, c'est quand même un point capital. Et derrière, tu as en plus une faiblesse, on va dire, sur la récupération. Et ils ont été quand même embêtés, pour ceux qui l'ont vu ce soir, par le pressing, quand il y en avait des Japonais. Ça veut dire que dès qu'il y aura une équipe...
Il y en a eu longtemps, parce que franchement, ils sont...
Physiquement,
ils se sont bien battus pour défendre leur but là. Moi, très honnêtement, je dois avouer qu'à la mi-temps, je voyais le Brésil très mal embarqué. Hein. Les Japonais défendaient tellement bien. Bon, l'égalisation est venue sur un marquage un peu léger sur coup de pied arrêté. Mais je les voyais capables de résister très longtemps. Hein. Ça défendait fort, quoi.
Roberto est là au 32-16 pour parler de la qualification brésilienne. Roberto, bonsoir.
Bonsoir l'équipe.
Bonsoir Roberto. Bah, écoute, pareillement. T'as tremblé un peu, t'as eu peur ou pas?
Ah oui, je pense.
J'étais pas étonné. Je suis plutôt étonné qu'on a gagné, mais j'étais pas étonné. Ces milieux de terrain du Brésil, c'est très compliqué. Casemiro, je ne sais pas ce qui a dit tout à l'heure. Au but du Japon, je le voyais avec sa trottinette derrière en train de marcher. Il n'a pas suivi l'action. Ça m'a désespéré. On a un problème. Ce problème, c'est milieu de terrain. Les joueurs, ils sont presque à la fin de la Coupe du Monde. Certains ne sont pas prêts physiquement. Ou ils ne seront jamais. Après, on prend la victoire, hein, comme tous les Brésiliens. On accepte la victoire. Hein, mais c'est... Après, j'étais surpris aussi pour le football du Japon, qui jusqu'à maintenant a attaqué, était un football très agressif. Et là, ça nous a arrangé les choses, en fait. Mmh. Ça nous a arrangé les choses. Puis avec l'entrée de Hendrick, qui n'a pas donné grand-chose.
Ouais, très discret, Hendrick, ouais.
Si Vinicius et si blesse, là, par contre, on est très mal barré. Il faut,
il faut
prier pour qu'il lui reste jusqu'à la fin, parce que à part Vinicius, je vois pas.
Après, Martinelli est entré, il a été bien. C'est également un joueur de côté qui percute, Martinelli, mais c'est plus un joueur, on va dire, pour que Martinelli brille vraiment. Il faut un collectif huilé. C'est pas le gars qui va forcément. Vaut mieux quand on a collectivement des faiblesses comme celle du Brésil. Il vaut mieux avoir un mec comme Vinicius avec son caractère un peu individualiste et en solo faire des décisions si le reste de l'équipe travaille un petit peu, quoi. Martinelli, il faut déjà beaucoup plus une équipe un peu rodée collectivement.
Je suis d'accord avec vous, mais avant le Brésil, chaque attaquant brésilien, il allait défier, il allait dribbler, il allait au contact. Et là, c'est arrêt total, quoi. Je les viens derrière.
Sauf Vinicius. Il a une action incroyable. Ouais. Il commence par petit pont sur le premier défenseur qui est en face de lui. Et derrière, ça termine, je crois, par un arrêt de
s'il marque là, ce serait un début de la Coupe du Monde.
Ça, c'est pas donné à tout le monde. Avant, le Brésil avait 2, 3, 4 joueurs qui pouvaient le faire. Aujourd'hui, il y a quasiment que Vinicius qui peut dribbler 3 joueurs.
Il y a quand même une équation qui est insoluble, à mon avis, pour Carlo Ancelotti. C'est effectivement celle du milieu, comme disait Roberto. On l'a évidemment dit depuis le début de la compétition. Insoluble parce que si on avait le fameux Neymar qui revenait de blessure mais était au top, tu pourrais te dire tiens, à un moment donné tu vas avoir dans la compète un vrai ajout et tu vas réorganiser éventuellement ton milieu, mais c'est pas le cas en fait, et là il l'a prouvé en ne le faisant pas rentrer. Donc il a effectivement la possibilité.
Neymar n'a jamais été milieu de terrain,
non, mais il aurait pu enlever un milieu.
Neymar c'est dans un 4-3-3, un gars dans la ligne du haut, hein.
Tu peux enlever un milieu si tu veux et avoir une autre, je veux bien,
mais il va falloir être costaud quand même, hein.
Ouais, mais à mon avis,
si tu mets Neymar en vrai 10 avec une ligne de 3 devant lui, va falloir que les deux,
ce que je veux dire justement, c'est que ça ne peut pas arriver, c'est-à-dire qu'il ne peut pas pas compter sur ça.
Ah, d'accord.
Pour là, mettre. Il dit ça, oui. Il peut pas compter sur ça. Alors, et donc, il n'a pas de ressources autres que faire entrer qui? Fabinho à la place de Casemiro. Ça ne fait quand même pas rêver. Et effectivement, Martinelli, bon, qui est pas non plus un immense joueur, quoi. Ouais, ok, il a été très, très adroit sur le but. Donc, en fait, il a pas beaucoup d'autres, de tout ce qu'on a vu là depuis le début. Il a des solutions pires. On a vu des latéraux pires que ceux qu'on a vus là. Il a un Casemiro qui maintient contre vents et marées parce qu'il n'a pas beaucoup mieux. Je comprends aussi pourquoi il le fait. Et puis devant, bah voilà, il a Vinicius. Puis derrière, on a vu que même Cunha, là, quand la pente s'élève, et Ryan n'ont pas été au niveau. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant pour la suite, en tout cas.
Roberto, Neymar qui n'est pas rentré, ça te satisfait ou tu aurais bien aimé le voir?
Ah non, je suis content. Où on va les mettre dans un match compliqué comme ça? Déjà, on a du mal avec les joueurs qui marquent pas et qui c'est un milieu qui était fragile. Et si on met un gars qui est handicapé, qui court pas, malgré tous les Neymar, non, c'est pas possible. Au contraire, je félicite Ancelotti de savoir gérer Neymar parce qu'il a son ego. Mais là, le match contre le Japon, s'il y avait 2-3-0 pour le Brésil, oui, il pouvait avoir 10-15 minutes de jeu. Mais là, un match compliqué comme ça, non, on ne peut pas se permettre de tous les Neymar qui peut être, de les mettre dans un match comme ça. C'est pas possible.
Et tu as vu Roberto, je ne sais pas si cette vidéo est virale, je le pense, au Brésil, du fils d'Ancelotti qui fait la moue quand son père fait entrer Neymar la dernière fois. Qui semble dire à la 76e. Et déjà, Ancelotti avait attendu tard que le score soit fait, bien tardivement. Là, il dit encore dans sa déclat d'après-match, oui, j'avais prévu de le faire rentrer. Tout ça, c'est pour ménager un peu le Ney lui-même et sa susceptibilité, sans doute. Mais t'avais vu, Roberto, cette image du fils d'Ancelotti qui semblait pas d'accord avec l'entrée de Neymar?
Oui, cette vidéo, elle est virale. Je pense qu'en France, au Brésil et partout dans le monde. Hein. Il a raison, le fils. Hein. Mais après, c'est compliqué qu'on ait géré un gars comme Neymar comme ça parce qu'il a une influence très, très forte dans le vestiaire. C'est très compliqué. Mais je pense pas que Neymar, à part sur le Brésil, les prochains matchs, il y a 2 buts d'avance. Je pense pas qu'on verra Neymar dans les prochains matchs.
Mais c'est vrai que toi, tu considères qu'il fallait pas le prendre? Fallait pas l'emmener à la Coupe du Monde?
Ah oui, moi je suis le fidèle supporter de que Neymar ne devait pas venir à la Coupe du Monde, c'est sûr. Hein. On devait le laisser là-bas en train de faire du poker au Brésil, tranquille. et n'importe, vous savez, quand on part à la guerre, il faut avoir des soldats solides. Et au Brésil, même si on n'a pas des stars, il faut des joueurs capables de courir 90 minutes, voire 100 minutes comme aujourd'hui. Et voilà, Neymar n'est pas apte, c'est tout.
Est-ce que c'est pas positif, mine de rien, de l'avoir dans le groupe? C'est une question, j'ai pas la réponse, mais s'il fait n'importe quoi dans le groupe, c'est différent que s'il amène une énergie positive.
Vous êtes des professionnels de la radio, vous connaissez le football, vous savez très bien que Neymar, il a toujours eu un côté obscur dans le vestiaire quand il était contrarié. C'est ce qui me fait peur, c'est ça.
Sauf que il y a un deal avec Ancelotti.
Là, il vient, il sait qu'il va pas jouer.
Voilà, il sait que Ancelotti, ce deal existe, c'est-à-dire t'es pas sûr de jouer, il y a pas de priorité, etc. Et il l'a dit qu'il acceptait ce deal, et on le voit d'ailleurs jouer le jeu, conseiller les autres, il est souriant, effectivement, il a l'air d'accepter tout ça.
Je suis d'accord avec vous, mais imaginons si le Brésil était éliminé aujourd'hui, je pouvais parier que demain Neymar, il était dans tous les réseaux sociaux et avec tous les journalistes en train de descendre Ancelotti, parce que là le contrat, il était fini après. Il n'y avait plus d'accord.
Après, une fois que c'est fini, c'est fini.
Oui, mais c'est pas à cause de Neymar. Voilà, il aurait été viré tout simplement pour manque de résultats. Voilà, Neymar serait parti, il serait probablement déjà une table à Vegas et tout le monde penserait à autre chose.
Roberto, voilà. Merci beaucoup en tout cas, c'était sympa de t'avoir. Il y a un autre joueur que t'as bien aimé là, que tu veux citer ou que t'as pas aimé et qui t'a énervé. On a parlé d'Hendrick.
Vinicius, pour moi, c'est 9 sur 10. Et après,
il a failli d'ailleurs mettre le but du tournoi.
Voilà, Casemiro, ce mec, il a une étoile parce que c'est pas possible. Il marche pour le but du Japon et après il arrive à marquer un but pour égaliser. Ah
bah, pour aller mettre une tête au deuxième poteau, t'as pas besoin de faire un sprint de 50 mètres. Hein.
Mais sinon, Casemiro et Paqueta, pour moi, ça fait partie du flop de ce match de Brésil, encore un fois.
C'est Guimarães qui tient la baraque.
Merci Roberto, milieu, bonne soirée.
Très juste. Merci la team, continuez comme ça, vous êtes au top. Merci beaucoup. Merci,
salut.
Quel bel accent.
Ouais, c'est vrai que c'est
similaire à celui de Rai, d'ailleurs.
Ouais.
Et voilà, c'est le sosie vocal de Rai.
Juste sur l'évaluation, je voudrais quand même que qu'on dise un mot aussi de Cunha devant. Qu'est-ce que vous en pensez de Cunha, parce que c'est un neuf au Brésil, c'est toujours le poste un peu emblématique. On le 10 aussi, mais enfin le 9. Cunha, c'est quoi, c'est chapeau 3.
On va dire qu'il se démène.
À l'échelle brésilienne.
On va dire qu'il fait de son mieux, il se démène.
Écoute, il y a une image qui m'a frappé, c'est qu'il y avait R9 dans la tribune et quand tu vois Cunha.
Bebeto aussi qui était là.
Ouais, Bebeto, effectivement. Et donc tu as tout en deux images, tu avais toute la fossé qui séparait les générations.
Tu sais qu'il y a une des plus belles équipes du Brésil de l'histoire qui n'avait pas de 9. C'est celle de 82. Celle de 82, elle a un 9 qui est franchement un vrai bidon. À côté, Cunha, c'est Ballon d'Or. Et ils avaient un vrai problème. Ils n'avaient pas de gardien, ils n'avaient pas de 9. Voilà, pour l'anecdote. Et c'était une des plus belles parce que c'est celle de Socrates, Zico, Junior. Enfin, c'était une équipe absolument fantastique, quoi. Et d'ailleurs.
Sauf que là, le problème autour de Matheus Cunha, c'est que, à part Vinicius, c'est un peu compliqué. C'est vrai que Matheus Cunha, bon, ça reste un bon joueur, hein, mais c'est mieux que Igor Thiago, déjà, qui est sur le banc. Ouais. Donc,
pour ça, il a gagné aussi par rapport place, à ça. Ouais.
Exactement. Donc, c'est sans doute lui qui va jouer les matchs maintenant. Après, quand ça va être vraiment dur, est-ce que c'est lui qui va faire la différence? Parce que c'est ce qu'on attend d'un numéro 9, encore plus d'un numéro 9 au Brésil. Ils ont eu l'habitude. Et là, j'ai pas l'impression qu'il soit en capacité, lui, de porter cette équipe du Brésil.
Il s'appelait Serginho, le numéro 9 de 82.
Absolument, Serginho.
Il y avait un autre attaquant qui s'appelait Roberto Dinamite.
Exact, je me souviens de celui-là.
Dans la sélection, il jouait pas beaucoup. Et moi, quand j'étais petit, il y a un nom qui me fascinait, c'était le sélectionneur.
Le
plan de coupe avec Télé Santana, j'avais l'impression d'être dans un feuilleton américain.
Il s'appelait Télé, c'est vrai que c'est un prénom un peu
étonnant.
Dans un instant, l'équipe de France, Fabrice est là, profitons de sa présence pour tout savoir du match de demain. Il y a une conférence de presse un peu plus tôt dans la journée ici à New York. Didier Deschamps s'est exprimé, Adrien Rabiot également. Notre studio est là à quelques centaines de mètres, à peine, à vol d'oiseau du stade du match de demain. Donc tout est en place pour France-Suède demain soir et on va en débattre dans quelques instants avant ensuite de parler de l'Allemagne qui joue dans maintenant une heure face au Paraguay. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 21h33 en France, il est 15h33 ici dans le studio américain de l'Afterfoot. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Fabrice Hawkins avec nous. On va parler de l'équipe de France dans quelques instants. On va entendre Didier Deschamps. Je rappelle que le Brésil s'est qualifié 2-1 face au Japon il y a maintenant une bonne demi-heure de cela, qualifié pour les huitièmes. On a un autre huitième dans un peu moins d'une heure entre l'Allemagne et le Paraguay. Peut-être le futur adversaire de l'équipe de France si les Bleus battent la Suède demain. Et on a la compo allemande avec Aurélien Tirsin qui est sur place. Aurélien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. Et la compo est classique, sauf Denis Undav, enfin titulaire. Toute la presse allemande, toute l'Allemagne réclamait le buteur de Stuttgart et il prend la place de Jamal Musiala. C'est quand même un choix fort de la part de Julian Nagelsmann. Musiala qui a joué la saison dernière un petit peu à cloche-pied après sa grave blessure contre le PSG l'année dernière au Mondial des clubs. Donc ça nous donne Havertz en pointe, Wirtz, Undav, Sané pour la paire de milieux offensifs, mais Mecha Pavlovic à la récupération, Brown est bien titulaire à gauche, Kimmich à droite, Rüdiger, Ta dans l'axe de la défense, Emmanuel Neuer, 23e titularisation dans son histoire en Coupe du Monde. Il dépasse Matthäus et Miroslav Klose comme l'Allemand le plus titularisé dans l'histoire des Coupes du Monde.
On te retrouve tout à l'heure, on sera avec Paulo Breitner également pour analyser tout ça. Donc Undav titulaire, alors qu'on avait reproché à Nagelsmann de ne pas faire tourner au troisième match, rappelez-vous, alors que c'était un match de coiffeur.
C'est double importance, parce qu'il joue et il joue à la place de Moussiala et pas à la place d'Havertz.
Voilà, donc il joue en soutien de l'attaquant. Effectivement, comme a dit Aurélien, tout le monde voulait le voir. Mais tout le monde voulait le voir parce qu'il a été décisif dans le match qui était un petit peu bloqué des Allemands contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, à lui de montrer qu'il peut démarrer en étant titulaire, parce que logiquement, si Moussiala est au top, si les joueurs allemands, on va dire plus connus sont au top, ça doit rester un remplaçant. Donc quelque part, c'est parce que tu as la défaillance d'un joueur qui doit être une star, la pépite du football allemand, Moussiala, c'est parce qu'il n'est pas au niveau, peu importe les raisons, parce qu'il a été blessé, parce qu'il a fait une saison handicapé justement par les blessures. Donc il faut voir ce que ça donne maintenant, l'association. C'est pas gagné, c'est pas juste la solution, tu le mets sur le terrain, ça va coller. Moi, le dernier match des Allemands, je l'ai pas aimé. Donc là, j'attends vraiment autre chose. A priori, il y a largement la place de voir autre chose parce qu'on est dans un 16e de finale totalement déséquilibré où les Allemands vont avoir le ballon. On va revoir probablement le même scénar que Brésil-Japon. À l'Allemagne d'envoyer le message que ce 16e de finale n'est qu'une formalité. À côté de ça, on a encore Leroy Sané. Alors ok, il a marqué, ok, mais bon, moi, j'arrive toujours pas à être convaincu et je sais pas pourquoi il est à ce point tout le temps titulaire sans discussion possible. Pour le reste, il y a pas de changement, quoi. Là, il y a le truc fort, c'est juste Moussiala qui laisse sa place à Onda. Après, maintenant, dans le jeu, c'est pas juste une affaire de personnes que tu remplaces. Et puis, autour que ça va bouger un peu mieux.
Et puis là, on parle de problèmes offensifs. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Derrière la charnière, depuis la perte de Schmetterbeck, bah oui, il récupère Rudiger. Et donc, et pour te dire, la dernière fois contre l'Équateur, ça a été compliqué. J'insiste aussi sur Neuer qui fait pas du tout sa meilleure Coupe du Monde, loin de là, et qui a été mis en difficulté aussi contre l'Équateur. Bref, voilà, il y a d'autres soucis et même le repositionnement de Kimmich à droite.
Malheureusement, Flo, c'est ça le truc à chaque fois de cette Coupe du Monde avec ce tour supplémentaire de 16e, c'est que c'est pas ce soir qu'on aura des réponses.
Sauf que l'Équateur, même qui était pas très très fort devant, les a fait souffrir avec cette défense.
C'est pas le Paraguay, hein. C'est largement au-dessus. Hein. Paraguay, il y a pas grand-chose, hein. Ouais, à part le copain de Gilbert.
Les titulaires d'ailleurs.
Évidemment, si tu veux qu'ils mettent qui?
C'est la star paraguayenne.
Ils ont pas non plus un réservoir de ouf, quoi. Donc si ta vedette joue pas ce match-là, voilà. Mais bref, je suis pas sûr qu'on ait énormément d'enseignements sur l'Allemagne qui, écoute, devrait gagner ce match. À eux de savoir si c'est en souffrant ou sans souffrir. Mais ça, là, ce serait une énorme surprise. Alors, est-ce que sur les 16 matchs, on va avoir zéro surprise? On vient de commencer simplement ce stade de la compétition, donc on verra. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, tout se passe comme prévu.
L'équipe de France, les gars...
Sans surprise non plus demain.
Fabrice, tu dis sans surprise. Alors, on va quand même entendre Deschamps qui parle de l'éventualité digne et qui parle de la rotation éventuelle Barcola-Doué. Mais est-ce que tu as des certitudes sur la compo, là, à 24 heures du match, un peu plus?
Non, très honnêtement. Il va y avoir l'entraînement de veille de match à 17h, donc dans 1h20, 17h, heure locale, il sera 23h en France.
Que l'équipe est sur place. Est-ce que les espions sont sur place?
Tout le monde.
Est-ce que t'as envoyé tes espions?
Oui, mais on peut pas donner les noms.
Est-ce que le drone et l'hélicoptère et RMC Sport sont en place?
Je t'ai pas demandé d'envoyer des noms. Je t'ai dit, est-ce que tes espions sont sur place?
Bah, tout le monde est sur place.
Bon, bah voilà, c'est tout.
C'est les 16e de finale, Daniel.
Moi, je t'ai pas demandé de balancer des noms.
Non, on met les grands moyens. Non, mais sur la composition d'équipe, en tout cas, c'est difficile de dire qui va jouer de Bradley Barcola ou de Doué, même si on imagine que ce sera Désiré Doué, mais ça peut très bien être aussi Bradley Barcola et on va entendre Didier Deschamps dans quelques instants. C'est le doute qu'il y a avec aussi Lucas Digne ou Théo Hernandez à gauche, parce que encore une fois c'est des joueurs qui sont en concurrence, il n'y a pas un très grand écart, et surtout pour Bradley Barcola et Désiré Doué, on va encore entendre, le mieux je pense que c'est d'entendre Didier Deschamps l'expliquer.
On va le faire tout de suite, d'abord sur le cas du latéral, donc est-ce que Digne peut demain être sur le terrain à la place de Théo Hernandez?
Moi j'y crois très fort. Je pense que
c'est Deschamps qui parle.
Alternance, il peut avoir une alternance plus haut aussi, de l'autre côté aussi. Je connais les deux joueurs qui n'ont pas le même profil. Moi, ce que je veux, c'est que celui qui commence, il soit très bon, et celui qui rentre, s'il a rentré, qu'il soit très bon aussi. Mais après, j'ai des choix à faire, mais j'ai pas que là à faire des choix. Qu'ils aient pu avoir répartir le temps de jeu, c'est plutôt une bonne chose aussi. Avec le staff, on fait en sorte de garder tout le monde, concerner tout le monde. Évidemment, l'esprit qui anime ce groupe aide aussi. Mais je comprends la déception, voire la frustration par moment. Quand elle est vis-à-vis de moi, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que ça impacte pas le groupe.
Toujours aussi fort, Deschamps, pour te faire une très longue phrase où, en fait, au final, il ne te dit rien.
Si, il te dit quand même des choses. Et on écoutera tout à l'heure.
C'est
faut qu'on parle le Deschamps.
Non, mais si, parce que là, en fait, il te dit, parce que tout le monde explique.
Il te dit, je veux qu'il soit là.
Non, ce qu'il te dit, c'est qu'il y a une vraie concurrence. Alors que tout le monde dit qu'il y a un 11 qui est quand même plus ou moins établi et que c'est sûr et certain.
Oui, un 11, sauf deux.
Voilà, exactement.
On a un 9.
On a un 9. Non, mais c'est ça.
On a un 9.
Il y a encore 2-3 jours.
Mais tu auras un 11 parce que. Non, on a tout le temps dit un 9.
Non,
si Digne démarre demain, on passe, on aura un 10. Et après, il restera simplement Barcola.
Il y a deux cas différents.
Barcola, je
pense qu'on a un 9,5. Parce que peu importe que ça soit Barcola ou Doué, pour moi, là, tu as vraiment la solution début. Ça pose de problème à personne.
Parce qu'à la fin du tournoi, on ne saura pas.
Il n'y a pas de titulaire là-dessus.
Ni à Deschamps, absolument. Ni à personne. Enfin, aux joueurs, tu préfères commencer. Mais maintenant, si tu joues 30 minutes et que tu es décisif et que tu marques, tu es content aussi. En revanche, moi, je vais plus loin. S'il ne sort pas Théo Hernandez, à mon avis, c'est une faute. Parce que là c'est, ça y est, il a épuisé tout son crédit, il l'a remis titulaire,
c'est pour ça que
il
je a crois que Digne démarrera.
Franchement, quelle que soit la situation et quelles que soient les performances de Digne qui n'ont pas toujours été exceptionnelles, Digne est au-dessus de Théo Hernandez. Deschamps, à mon avis, ne peut pas ne pas sortir Théo Hernandez. J'ai compris qu'il aimait Koundé qui va le maintenir, ok. Et puis il y a des raisons parce que Koundé est plus défensif, s'il y a un déséquilibre de l'autre côté, ok. J'entends ça, mais côté gauche, et là on n'est pas dans le cas de ce 9,5 dont je parlais pour le poste offensif côté gauche, on est dans un cas important. Qui va être une compensation du déséquilibre assumé de cette équipe-là. Et moi, je pense que par rapport au match, à la prestation calamiteuse de Théo Hernandez la dernière fois, il faut le sortir.
En tout cas, si Digne commence et qu'il joue bien, c'est vrai qu'il peut gagner sa place pour le reste du
tournoi. Tout à fait. Écoutons maintenant Didier Deschamps qui parle de l'alternance éventuelle Doué-Barcola.
Forcément, les profils de joueurs amènent à avoir de la dangerosité dans des domaines différents. Équilibre l'un et l'autre, il n'y a pas de problème pour les associer aux trois autres joueurs offensifs. Après, ça dépend des scénarios de match, des circonstances de match aussi. Barco n'a pas toujours eu cette capacité à bien rentrer ou à bien commencer les matchs. Là, il est bien. Dez a eu un petit peu de réticence ou un peu de fébrilité sur le premier match. Mais c'est deux joueurs qui sont faits pour le très haut niveau. Moi, je veux que celui qui commence, il soit très bon, et celui qui rentre aussi.
Ouais, donc, il aurait dit ce qu'il a dit pour Digne.
Après, on en a pas...
Et Hernandez.
C'est pas un peu fake, là, les diminutifs, Barco, qui dit Barco pour Barcola, Dez.
Si, Dez, tout le monde l'appelle comme ça.
Ouais, mais bon, je veux Barcola, dire, Deschamps qui
Barcola,
dit.
Barcola, c'est plus Brad.
Moi, c'est les coachs qui font ça par rapport à leurs joueurs. Ça me rappelle Galtier qui voulait faire en mode le nez, le machin, mais... il était pote avec les. Je supporte pas.
Mais il le fait pour
c'est
tout
comme
monde.
Les commentateurs tennis avec les.
Toi, tu préfères Lucien Favre qui disait Monsieur Barcola.
Bien sûr,
va peut-être,
vous voyez les joueurs à l'entraînement.
Va peut-être remplacer Monsieur Doué.
Ouais, et qui vous voyez les joueurs à l'entraînement.
Ouais, mais ça, c'est fake parce que c'est pas comme ça qu'il leur parle.
Ok. Il lui dit Dez.
Mais quand t'étais au lycée, tu préférais les profs qui te tutoyaient ou qui te vouvoyaient ?
Moi, je tutoyais les profs, mais ils me vouvoyaient. Sauf que j'ai eu ma mère comme prof.
Non, mais.
Donc j'ai tutoyé, je la tutoyais.
Le truc des surnoms, c'est vrai que c'est souvent un petit peu ridicule. Et on n'est pas obligé d'aller dans le monsieur machin pour expliquer juste le Dez, le machin et tout. Bon, écoute. Bah après, peut-être
c'est
que.
Pas, c'est un avis tranché
après,
qui est
peut-être
pas capital,
que ça permet, mais... après, oui. Que ça permet une c'est familiarité qui fait que le public qui les entend a l'impression d'être avec eux et s'ils les avaient devant eux, peut-être que s'ils les appelleraient par leur surnom, peut-être que ça peut créer quelque
non,
chose
moi,
d'un,
un côté,
d'un peu chaleureux après tout.
Ce que je n'aime pas dans le truc, c'est qu'il y a le côté, vous voyez, moi je parle avec eux comme eux. Moi, s'ils disaient Barcola va jouer, Doué sera là, tati, tata, machin, t'es le coach, t'es le mister. Voilà, pour moi.
Ou alors carrément
pas
le prénom.
Familiarité.
Le prénom tout court.
En entier.
Désiré va jouer, Bradley.
Moi, ça me choque pas parce qu'il l'a fait.
Moi,
pour
je dis Daniel. Daniel en tête, je dis pas Dani. Je dis pas Dani. Il y a un mec qui l'appelle Dani. Je dis pas Dani.
Alors que
Daniel.
Dans la vie, tu l'appelles Dani, par exemple.
Bah, on pourrait l'appeler Dani en dehors, c'est pas pareil. L'antenne et le dehors, c'est pas pareil.
Ça arrive, certains, mais.
Bah, bien sûr, il y en a qui t'appellent Dani. Gilbert, on l'appelle Gilbert, on dit pas Gib.
Bah, toi, on t'appelle Flo, donc.
Ouais, mais je m'appelle
là, pour
Flo.
Le coup, ton exemple ah, moi, est foireux parce que.
On dit Flo,
parce que toi, on dit Flo.
Ah, parce que moi, c'est ma marque. Attends, c'est une marque.
La problématique, de toute façon, au-delà de ces cas particuliers, c'est qu'on, c'est impossible, Fabrice, d'envisager que la Suède élimine la France, en fait.
Non.
En tout cas, les joueurs d'équipe de France et le sélectionneur.
Ce l'excès de confiance est possible.
Attends, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'ils se sentent très forts. Ils se sentent très forts et ils savent que s'ils sont concentrés, ils vont aller très très loin. Ils vont vraiment aller loin, demi-finale, finale, gagner. C'est vraiment ce qu'ils ont en tête. Et ils entendent tout ce qui se dit autour d'eux. Ils sont pas dupes de ça. D'ailleurs, Adrien Rabiot en parlait en conférence de presse.
Ah, c'est marrant. Il a fait une allusion à l'Euro et au match
l'élimination
contre la Suisse.
En 2021.
Où il a dit on a été superficiel, comme si finalement cette génération avait eu sa claque. En gros, en étant suffisant.
Oui, mais c'est une façon
en expérience.
Et que voilà.
On lui pose la question parce que c'est en gros, on va essayer de trouver les journalistes qui sont là veulent essayer de trouver le petit grain de sel qui
Le seul moment où finalement les Bleus ont connu ce moment un petit peu irrationnel de suffisance qui les a plombés. Et c'est comme pour dire, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus.
Bon, en fait, ils se sentent très forts et ce que je voulais dire et je termine là-dessus, c'est qu'en fait, c'est le rôle de Didier Deschamps et justement des cadres qui ont connu des illusions, Kylian Mbappé qui était là. à l'Euro, Adrien Rabiot, tous ces joueurs-là qui étaient vraiment en difficulté, qui ont souffert de ça et qui doivent porter le groupe de l'équipe de France.
Dans un instant, on va continuer le débat au 32-16 et puis ensuite on parlera de l'Allemagne. La nuit de l'after continue. Il est 15h46 ici à New York. C'est plutôt l'après-midi de l'after ici, mais pour vous en France à 21h46, c'est la nuit qui commence avec deux matchs. Donc tout à l'heure à 21h30, Allemagne-Paraguay, et à 3h du matin cette nuit, un magnifique Pays-Bas-Maroc que vous pourrez suivre en intégralité sur RMC, bien sûr. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
La nuit de l'after continue, il est 21h48 en France, 15h48 ici dans le studio new-yorkais de l'after avec Florent Gautreau, Daniel Arrigo, Fabrice Hawkins avec nous. Pour conclure sur l'équipe de France se projeter vers le match de demain, on a Aymen au 32-16 qui est là. Bonsoir.
Bonsoir l'after food.
Salut, ça va?
Ça va très bien. Ça me fait plaisir de vous parler. La dernière fois où je vous ai parlé, c'était à la Coupe du Monde 2014. Voilà.
Donc toi, t'es un homme de Coupe du Monde.
Et t'étais venu parler de quoi? Est-ce que tu t'en souviens 12 ans après?
Oui, je me rappelle, j'avais parlé de l'Argentine et j'avais dit que c'était l'équipe qui allait gagner. Bon, après, ils sont arrivés en finale et ils n'ont pas pu gagner.
Voilà. Bon.
C'était ça le souvenir que j'ai et on a parlé de ça. C'était à l'after.
Alors toi, tu nous dis que tu aimerais bien que Théo Hernandez joue demain.
Alors, moi, en fait, je disais par ancienneté, on va dire, ou par expérience, Théo Hernandez est pour moi toujours le numéro 1, même s'il est très bien titillé par la concurrence qu'il a aujourd'hui. Mais en pensant que c'est Doué qui va jouer à l'avant, et que Doué, il a un bon travail défensif, eh bien, ça sera bien d'avoir quelqu'un en arrière qui joue offensivement bien et qui est Hernandez. Maintenant, si on met Barcola, et ben ça sera bien pour équilibrer, mettre quelqu'un plus rigoureux défensivement et qui est digne. Voilà. Sachant que pour moi, le côté gauche, il est toujours bien sécurisé par un Rabiot qui va à gauche, par les défenseurs centraux qui vont aussi. Donc pour moi, c'est un côté qui est bien gardé défensivement. Et puis quand on a les trois offensifs qui sont à fond, Doué, il se met toujours un petit peu en retrait. Il va chercher le premier ballon, que ce soit dans l'axe ou sur le côté. Donc, pourquoi pas mettre un Hernandez qui reste quand même offensivement meilleur que lui.
Ah, est-ce que les arguments d'Aymen vous parlent? Ou est-ce que vous n'y croyez pas?
Non, vraiment, j'ai du mal à lui voir les qualités que tu évoques. Là, vraiment, pour moi, il est vraiment, même tactiquement, puisque c'est tactiquement que tu essayes d'expliquer ça... Pour moi, il est vraiment fini, quoi.
Et moi, il y a deux.
J'arrive plus à lui voir de qualité, quelle soit, quoi.
Il y a deux sujets différents, en fait. Que Doué défendre, c'est vrai. Et ça, par contre, c'est à noter sur son registre et peut-être parfois son moindre apport offensif, paradoxalement, par rapport à d'autres matchs. En revanche, derrière, le problème d'un joueur devant toi qui défend, c'est utile, t'as raison, pour l'aspect offensif. Mais en revanche, quand tu te retrouves dans la surface et que tu fais faute sur le péno parce que tu défends mal et que tu es mal positionné.
Parce que t'as plus les jambes pour faire le pas, voilà, pour rattraper le gars et tout.
C'est que t'es un mec qui défend devant toi.
C'est pour ça que l'explication tactique, je l'entends, Imen, mais en fait, le mec, je vois plus de qualité, quoi.
Mais il a plus les cannes, surtout.
Il a plus de jambes.
À gauche, il pouvait attaquer.
Il a plus les jambes.
Mbappé, souvenez-vous,
à la limite, c'est ce qu'on disait à l'époque. On disait, bon, ok, alors peut-être il est un peu trop offensif, machin, mais il a tellement de jambes qu'il va être capable de revenir. Donc on disait, il faut juste surveiller, éventuellement fermer un petit peu dans son dos. Des fois, c'était le milieu qui pouvait, genre Rabiot, resserrer et tout. Mais là, le problème, c'est qu'il a plus de jambes. Il joue plus. Ça fait longtemps qu'il joue plus au haut niveau, ce gars-là.
Plus de jambes, plus erreurs défensives, plus mauvais placement. C'est ça qui le pénalise par rapport à Lucas Digne, qui même parfois, même si il peut lui aussi commettre quelques petites erreurs, mais c'est rigoureux et globalement avec lui,
tu vas avoir. C'est un gars qui d'ailleurs par rapport à son ancienneté, à son âge, Digne, a des performances au niveau physique qui sont très 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 intéressantes. Donc moi, je ne veux pas vous défendre Lucas Digne. Je dis juste que c'est très étonnant. Moi, les deux choses qui m'avaient gêné dans cette liste, c'était les deux frères Hernandez, pour des raisons différentes. Théo, pour plein de raisons. Lucas, parce que pareil, ça devient un peu compliqué. La fidélité a ses limites pour moi. Eh ben, on se retrouve. Alors, Lucas ne joue pas, donc je ne veux pas. Voilà, c'est un gars qui.
Mais il est
très, très bien. Oui, on m'a dit ça.
Il avait coupé Randal Kolo Muani et Eduardo Camavinga. Il pouvait pas enlever tout le monde.
Je ne vais pas le critiquer, mais en tout cas. C'était ces deux profils pour des raisons différentes qui me gênaient et on se retrouve sur le terrain avec un manque sur le côté gauche parce qu'il a sélectionné un joueur qui à mon avis ne méritait pas d'être sélectionné et ce qui t'enlève une autre solution éventuelle comme à Udol ou autre dont on avait parlé. Tu te retrouves avec moins de solutions effectivement, t'as Lucas Digne qui est un bon soldat qui est là et qui mérite tout simplement de jouer, quoi. C'est pas, il va pas révolutionner l'équipe de France.
Et comme on l'avait dit en plus la dernière fois, et Fabrice, tu le sais, ce gars-là est devenu hyper important dans le vestiaire. Ça n'est pas, c'est vrai, il a un peu l'image du petit garçon, de, on va dire, un peu effacé, quoi. Alors que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. C'est un mec qui est très important dans la vie du groupe, qui parle, qui a une personnalité.
C'est surprenant, en fait. Il a une personnalité qui est très appréciée.
Et donc
lui, comme son entourage.
Donc, il peut jouer, quoi. Il peut, il y a pas de raison. Ce n'est pas pour un surplus de caractère ou de confiance que Théo Hernandez mériterait d'être plus là que le Digne, qu'on imagine peut-être un peu fébrile, moins fort mentalement et tout. Non, non, le gars, il est en première ligue depuis des années. C'est peut-être pas le meilleur arrière-gauche du monde, mais il est meilleur qu'Hernandez.
J'ai des soucis.
Il est meilleur qu'Hernandez.
Il y a quelques limites parfois. Comme l'a dit Fabrice, ça peut arriver de faire des erreurs, mais moi, j'ai aucun souci sur le fait qu'il va appréhender un match comme ça sans aucune crainte.
Bon, je remercie Emen, merci beaucoup en tout cas. Attends pas 2038 pour nous rappeler.
Je voulais juste dire que vous comparez l'Hernandez d'avant avec l'Hernandez d'aujourd'hui. Vous êtes déçu de lui, mais il va y arriver parce qu'il tire, il va dans l'axe et moi je pense qu'il va jouer et je pense qu'il va être très 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 influent sur le côté offensif.
Eh ben écoute, on verra demain si tu as raison. Salut Emen, à bientôt. Vous avez remarqué qu'on parle plus du tout d'Embélé, hein.
Ah bah, il a mis 4 buts, il a
voilà,
mis un triplé.
Terminé, au revoir.
Je l'avais dit qu'il est revenu en forme.
Voilà, c'est vrai. Thuram forfait.
Thuram forfait, N'Golo Kanté incertain. Je pense qu'on va savoir ça. Didier Deschamps va analyser la dernière séance d'entraînement. Et puis je voulais dire un mot aussi sur Didier Deschamps qui a parlé de Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous avez noté ça, mais comme d'un joueur en mission qui défend peut-être un petit peu.
Ah bah ça, on n'a pas attendu, on l'a dit nous. Qu'il était en mission.
Exactement, qu'il défend peut-être un petit peu moins que les autres, mais qu'il défend quand même beaucoup, et mais qu'il attaque surtout, et qu'il met plus de buts aussi que les autres. Il a vraiment eu beaucoup d'éloges pour Kylian Mbappé. Il a vraiment, on a eu l'ascenseur qu'il voulait vraiment le mettre en avant, et surtout dire tout ce qu'il fait dans le groupe qu'on ne voit peut-être pas et qu'on ne dit pas suffisamment assez. Et c'est l'une des premières fois que je vois.
Et il a eu raison de le dire. Parce que c'est vrai, il faut le mettre en avant. C'est le vrai patron, le capitaine de cette équipe.
Fabrice, profitons de ta présence. T'es pas tous les jours avec nous. On a parlé un peu mercato hier. On a avec tes infos expliqué que Diomandé se rapprochait du PSG. À Cliouche, ça discute. Est-ce que 24 heures plus tard, ça bouge un peu ou
Déjà, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'Yann Diomandé, il est actuellement en conférence de presse, qu'il a été lancé justement.
Donc là, tu dois la suivre là.
De ça, je la suis d'ailleurs. Et la question lui a déjà été posée et il a botté en touche, disant qu'aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la sélection, cette qualification avec son pays et que il y avait des agents
pas dupes.
On n'est pas dupes. Plutôt dans la journée, il y a le directeur sportif de Leipzig qui a dit qu'il était hors de question qu'il parte. En tout cas, que eux voulaient le garder malgré les intérêts de Liverpool et du Paris Saint-Germain. Mais ça ne change absolument rien. Le Paris Saint-Germain veut le recruter. Il y a déjà un accord entre Paris et Yann Diomandé qui porte sur 5 années, comme on l'a expliqué hier. Ensuite, maintenant, ça va être des négociations de club à club.
Et
si Diomandé vient, d'accord, Barcola est obligé de partir.
En tout cas,
ça
va se poser parce
que ça va être trop là.
Il y a Diomandé. Déjà, simplement pour finir sur Diomandé, j'ai entendu hier peut-être que les deux clubs étaient super proches et que ça pouvait se faire en 24 heures. C'est impossible parce que Leipzig veut une certaine somme que le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à payer pour l'instant. On parle de plus de 100 millions d'euros. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est ce qui va se passer avec les joueurs qui sont déjà en place parce qu'il y en a plusieurs. Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola. Il va y avoir une gestion à faire entre les joueurs que le Paris Saint-Germain veut, c'est-à-dire Yann Diomandé, Marnès Akliouche, et ceux,
je vois Eli Kroupi.
Moi, j'ai pas entendu Eli Kroupi, très honnêtement. Okay. Mais il peut venir peut-être dans les semaines à venir. Pour l'instant, c'est pas un profil que j'entends qui peut arriver et sur lequel le PSG
est pas sur les tablettes en ce moment.
Okay. Et donc, pour répondre à ta question, Daniel, oui, la question va se poser. Dans tous les cas, Bradley Barcola, ça va être un des feuilletons de l'été.
Bon, à suivre évidemment le mercato PSG, tout ça à retrouver grâce à Fabrice sur rmcsport.fr. Donc tu arrives à faire l'équipe de France et le mercato en même temps là.
Ah, on essaye.
Toujours deux téléphones là, Fabrice.
Et t'as vu que le PSG a reporté la reprise de l'entraînement, c'est quand même fou.
Exactement.
Ils ont reporté d'une semaine la reprise de l'entraînement à cause du coach. Parce que, en fait, je comprends pas ce qu'il se passe à Rosignan.
Ils n'ont pas de coach.
Ouais,
t'as toutes les infos, mais tu comprends pas.
Non.
Il veut qu'on lui explique.
En fait, même quand
t'as pas de coach à Strasbourg, non plus, ça commence à m'inquiéter.
Mais c'est vrai. Le truc, c'est que même quand t'as les infos, ça n'empêche que vu que c'est pas toi qui décides, t'as le droit de pas comprendre. Donc, s'ils se sont mis d'accord avec Rosignan, bah, vas-y, signez, quoi.
Bah, en tout cas, je vois pas comment ils ont pu dire à Antoine Camboire qu'ils lui ont fait comprendre, en gros, que ce sera pas lui.
Bah, oui.
C'était terminé, comme tu le disais très justement. Bon, je vois pas comment
ils auraient dû faire
déjà avec un entraîneur.
Ils auraient dû faire Walid Regragui, ça serait déjà bouclé et ça aurait été une Très bonne idée pour le PFC. Après, Strasbourg qui a pas de coach, mon vieux, là. Je sais plus quoi faire pour toi, Gilles Bien.
Oui, parce que Thiago Motta, c'est foutu, c'est ça?
Donc là,
on peut en parler ou?
Ce sera pas de... Oui, on peut le dire. Thiago Motta, on a regardé. J'ai prospecté pour savoir un petit peu s'il y avait une possibilité de Strasbourg de l'attirer. Et on m'a expliqué pas plus tard que tout à l'heure qu'il fallait oublier cette piste.
Ouais. En fait, en gros, t'as demandé à Londres.
Dommage, ça me plaisait.
Oui, forcément.
Tu leur as parlé.
Il a composé un numéro anglais pour avoir l'info, pas un numéro français.
Tu leur as parlé d'Habib Bey?
Non.
Très bien. Si tu peux rappeler, s'il te plaît. Bon, dans un instant.
Habib Bey est toujours sous contrat avec l'OM.
Oui, ça c'est vrai aussi.
Ah oui, bah oui, puisque pour ça, Genesio est toujours en salle d'attente.
Exactement.
Ah, beaucoup, il y a beaucoup d'attentes. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais Genesio, c'est un mec, tu sais, parce que généralement, toi, tu vas chez le médecin, t'es en salle d'attente, t'es pressé que ça finisse. Tu dis, c'est bon, stop, la salle d'attente, c'est relou. Lui, c'est le mec qui est content d'être en salle d'attente.
Ah, il a l'étoile d'araignée autour de la chaise.
Lui, il a organisé la salle d'attente. Il a installé la télé. Il peut se faire à bouffer, les peinards. Il s'en est fait un salon.
Si par hasard, il pouvait prendre une autre direction et peut-être changer d'avis, il le ferait. Mais ouais, il ira à l'OM.
Non, je pense que...
Bon, à l'OM. Dans un instant, on va dire un mot du fameux projet de loi qui peut tout changer dans le football français. Et bien sûr, l'avant-match d'Allemagne-Paraguay qui démarre dans maintenant 32 minutes. Paulo Breitner va nous rejoindre. A tout de suite dans les nuits de l'After. On est là jusqu'à 5h du matin.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 22h02 en France, il est 16h02 ici dans le studio new-yorkais de l'After. Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, Fabrice Hawkins est là. On va partir dans quelques instants prendre des nouvelles de l'Allemagne avec Paulo Breitner qui est avec nous dans quelques secondes. Allemagne-Paraguay, c'est dans maintenant 28 minutes.
Juste, Gilbert, une toute petite stat pour finir sur le Japon-Brésil. La Confédération Asiatique a vu disparaître ses deux représentants. Et quand on faisait les bilans, ils sont pas concrets gaffe hein.
Non, l'Australie, ils sont
mais ils vont disparaître.
Ils vont disparaître aussi.
Il faut leur filer moins de tickets.
Non, mais par rapport aux réussites des différentes confédérations, ce sera intéressant de faire le bilan.
Effectivement. Une petite info franco-française par ailleurs que je vous donne. Montpellier n'est plus à vendre. Les Nicolins font marche arrière et décident de continuer à gérer le club. Voilà, il y avait hésitation. Apparemment, peut-être ils ne se sont pas mis d'accord avec un éventuel acheteur.
Bah écoute, tu vois l'épisode de Thauvin, raconté par Thauvin dans le petit film sur Ligue 1 Plus.
Qui a appelé Laurent Nicolin pour dire
Laurent Nicolin
chez
en
vous
premier avant d'aller
il l'a pas
son bonheur ailleurs. C'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ouais, c'est un club qui est en perdition.
Pour Montpellier.
C'est un club qui a fait les mauvais choix sportifs, qui a fait également les mauvais choix politiques en se mettant dans la barque Vincent Labrune, qui s'est écroulé cet après-midi d'ailleurs. Hein, ça nous fait une
transition. Une barque qui ne s'écroule pas, elle coule.
Voilà, plutôt. Non, j'allais dire surtout, c'est même plus une barque. C'était un gros bateau qui était, comment dire, le capitaine de ce bateau-là, c'était Nassal Relaifi, le petit mousse. En carton, c'était Vincent Labrune.
Daniel, j'y arrive, on y arrive. Donc le fameux projet de loi concernant la gouvernance du foot et du sport en général, hein, d'ailleurs, parce que ça concerne aussi les autres sports, a été adopté 75 pour, 2 contre tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Évidemment,
des pressions énormissime, malgré la signature d'une tribune il y a 48 heures de 20 des présidents Ligue 1 et Ligue 2. Donc on rappelle, évidemment, Vincent Labrune est dans l'histoire, Nassal Relaifi, Lille, Nice, beaucoup de clubs. Hein. Là, c'était partagé en deux sur la Ligue 1. Mais c'est vraiment un résultat qui est, pour ce camp-là, une véritable gifle.
Alors concrètement, ça veut dire que la fédération et son président Diallo va avoir beaucoup plus de pouvoir que précédemment. Le poste de direction de Vincent Labrune va dans l'absolu disparaître, donc il va y avoir une réorganisation complète.
Vu qu'on a trouvé le successeur de Nicolas Taverneau qui s'appelle monsieur Branly Charles, je crois son prénom. En tout cas Branly, j'en suis sûr pour
il n'est pas resté à quai.
Donc aujourd'hui, avec cette loi qui a été votée, le poste de Vincent Labrune ne sert plus à rien. Donc je ne sais pas à quoi il va pouvoir encore s'accrocher. Déjà qu'il était accroché à un arbuste où il y avait des toutes petites branches. Il n'était que soutenu par ses amis Nasser et l'étang. Il faut quand même rappeler d'où vient le projet. Face à la catastrophe de gestion du football français, des droits télé qui se sont écroulés, on se souvient qu'on avait reçu 2 sénateurs, Lafont, Savin, qui s'étaient emparés du sujet pour en gros dire « Vous avez tellement géré ça n'importe comment pendant des années pour au final mettre le foot français dans le caniveau qu'il faut qu'on revoie tout ça. » Là, suite à la prise en main par ces 2 sénateurs et à la mise en place de la réforme après moult discussions avec tous les acteurs du football, est né ce projet de loi qui a d'abord été voté par les sénateurs avant d'arriver devant les députés à l'Assemblée nationale ce matin. Où on a, alors il faut rappeler un peu pêle-mêle tout ce qu'il y a là-dedans. Donc il y avait une lutte plus grande contre le piratage, une limite ou un contrôle très strict de la DNCG sur la multipropriété. Ça c'est très important, ça va parler à beaucoup de nos éditeurs qui sont contre. Oui, le rôle de Philippe Diallo va devenir de plus important. D'ailleurs, il faut le dire, c'est une très belle victoire pour Philippe Diallo que nous soutenons. En tout cas, moi, je soutiens. Ça veut dire que la Fédé peut contrôler.
Une victoire de la Fédé contre la Ligue.
Exactement, c'est en gros... Nous constatons que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Nous pouvons vous retirer la subdélégation. Puisqu'on rappelle que la Fédé.
Je précise que ça vaut pour les autres sports. Hein.
Ça vaut pour tout le monde.
Les ligues, basket, hand, rugby.
En fait, ça vise le foot quand tu lis le truc, mais ça peut valoir. Il y a eu des cas.
Bon, les gars, le temps passe. On aura le temps dans les jours qui viennent de revenir là-dessus.
Oui, on reviendra, on expliquera. Et Philippe Diallo sera avec nous pour nous expliquer. Il faut juste maintenant, il y a 2-3 amendements qui doivent être revus et en commission mixte paritaire. Ça devrait se faire dans la semaine. Et la loi sera définitivement adoptée. Et je l'espère, on passera à autre chose dans la gestion du football français et surtout que tout le monde se remette, je parlais de barque tout à l'heure, réellement sur le même bateau pour faire avancer le sport français, lutter encore plus contre le piratage puisque ce serait prévu dans la loi et trouver un diffuseur à la fin de l'année ou en tout cas peut-être un distributeur à minima pour enfin on avance et qu'on sauve le foot français et qu'on se débarrasse réellement du président de la LFP, que Vincent Labrune s'en aille à Saint-Rémy. C'est bon, on t'a assez vu.
Allez,
c'est
on terminé. A compris, Daniel.
Stop, au revoir.
Allemagne, Paraguay à Boston dans maintenant un gros quart d'heure. Aurélien Tirsain est avec nous bien sûr et Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Est-ce qu'il est content de la compo Polo?
Attends, on va la rappeler avant que Polo donne son avis.
Ouais, il la connaît.
Aurélien, oui, mais ceux qui les auditeurs de l'after ne connaissent pas tous. Vas-y Aurélien.
Manuel Neuer dans les cages, derrière Jonathan Tah et Antonio Rüdiger en charnière, Joshua Kimmich à droite, Nathaniel Brown à gauche, Pavlovic Mecha à la récupération, Leroy Sané à droite, Florian Wirtz à gauche de l'attaque, pour l'instant c'est du classique, mais Denis Undav réclamé par toute l'Allemagne est bien là en soutien de Kai Havertz. Et très rapidement côté Paraguay, on va retenir Gustavo Gomez, le taulier, derrière titulaire Andrés Cubas, ancien Nîmois, qui sera dans la pointe basse du milieu de terrain, et puis l'immense Julio Enciso, en tout cas vu comme ça au Paraguay, le seul joueur qui peut faire la diff est bien titulaire à gauche de l'attaque. Et à droite il y a Miguel Almirón, quand même l'ancien joueur de Newcastle, qui est aujourd'hui revenu à Atlanta United.
Polo, est-ce que Undav titulaire ça te plaît?
Moi ça me plaît, mais il y a surtout la justification de Nagelsmann, pourquoi est-ce qu'il met Undav et non pas Musiala. C'est qu'on a besoin, on a vu ça lors du troisième match de poule contre les équipes sud-américaines, l'Allemagne a un vrai problème de densité dans la surface adverse, et Musiala qui revient de cette blessure, qui n'arrête pas à être à 100% parce qu'il a encore sa cheville où il ne veut pas, il a peur des tacles et donc il y va pas à 100%, et bien on préfère mettre quelqu'un qui a plus un physique de belle brute quand même, hein. C'est Undav qui en plus évidemment a réussi son mondial en tant que remplaçant. Donc en fait, si tu veux, quand tu vois l'arrivée d'Undav, c'est que Nagelsmann a compris, pour être gentil avec lui, de son erreur contre l'équipe sud-américaine lors de la troisième journée des poules. Et là, comme c'est encore une équipe sud-américaine, on cherche à mettre de la densité dans les 16 derniers mètres.
Est-ce que vous voyez un match très déséquilibré, les gars ?
Très déséquilibré, je sais pas, mais en tout cas, oui, a priori. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'Allemagne va progresser par rapport à cette compo. Le retour de Brown, ce choix-là, Undav, et la sortie de Musiala, ce sont effectivement des choix forts, entre guillemets. J'ai émis tout à l'heure les quelques doutes sur Rüdiger et même sur Neuer, donc à voir aussi. Mais c'est surtout effectivement ça qui m'intéresse. On est quand même dans une, comme disait Daniel tout à l'heure, dans une rencontre déséquilibrée.
Ah, le match, il l'est. Maintenant les Allemands doivent nous montrer et transformer notre impression en réalité. Si ce match n'était pas déséquilibré, ce serait un caillou de plus dans la chaussure des Allemands.
Ah, il faut qu'ils montent en puissance, les Allemands.
Ah oui, oui. À un moment, il faut envoyer un message.
Groupe, ils vont jouer sans doute l'équipe de France ce week-end. Il vaut mieux quand même que les automatismes soient bien réglés.
Et Gilbert, les Paraguayens, hier, en conférence de presse, ils ont déjà baissé les chaussettes. En plus, donc les Allemands, ils ont vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'ils ont dit, notamment Gustavo Alvaro, le prophé, qui a expliqué pendant une demi-heure à quel point les Paraguayens devaient être humbles parce qu'un pays minuscule de football pour l'instant, qu'il fallait viser le mondial prochain et qu'ils étaient déjà heureux d'affronter un potentiel candidat au titre. Donc les Allemands, ils sont pas. Depuis le Paraguay, en tout cas, ils sont vus archi favoris à 99,9%.
T'es le seul à rentrer dans ce bluff, toi. Tu crois que les Paraguayens, ils...
Non, bah évidemment. Ben ouais, mais quand tu regardes l'effectif du Paraguay, c'est désespérant. Hein. Il y a vraiment pas grand-chose à part Enciso, qui est vraiment la méga star. Et on l'a assez vu avec Strasbourg, Gilbert, pour savoir que c'est pas non plus le joueur ultime qui peut faire basculer l'Allemagne avec tout seul.
Alors attention,
merci de nous rejoindre.
J'ai vu un classement que je ne connaissais pas.
Ouais.
Classement...
Les dribbles, non, c'est ça ?
Non, de la FIFA. Le dribble. Non, pas du tout. Il y avait un classement sur les joueurs. Alors, je sais pas trop comment ils le font, hein, ce truc-là. Il y avait un classement sur les joueurs créatifs.
En une sorte de quotient. Ça veut dire quoi ? 7,1 quoi, Daniel ? C'est quoi ? Sur combien ? On comprend rien. Mais oui, mais 7,1 quoi ? Ils nous disent pas. Ils nous disent.
Enciso,
7,1. Mais c'est pas.
Le classement était quand même intéressant. Je sais pas si tu l'as sous les yeux. Mais Enciso était 7e de ce classement. De quotient de créativité. Le premier, c'était qui mais non, dans les premières places, en quotient de créativité, t'avais les bons joueurs, hein, attention. Hein.
Ah oui,
les critères, en fait, c'est le problème de tous ces classements et tous ces pourcentages qu'on voit depuis le début de la compétition. En fait, on est arrosé de ça, même au stade, mais tu sais pas vraiment à quoi ça correspond. Donc, effectivement.
Est-ce qu'ils ont fait les classements des mecs qui lèvent pas la tête quand ils ont le ballon dans les pieds ? Parce que là, il est aussi dans le
champ des pieds. Ils n'ont pas fait celui-là. Mais quotient de créativité, t'avais que des bons joueurs. Hein. Et Enciso arrivait à se classer top 10.
Bon, Polo, qu'est-ce qui pourrait faire que l'Allemagne ne se qualifie pas aujourd'hui ?
Bah, qui efface la même prestation au milieu de terrain qu'elle a faite lors de ce match contre l'Équateur. C'est-à-dire que Jürgen Klopp a été très dur après la rencontre en stipulant qu'on ne peut pas jouer de cette façon contre une équipe sud-américaine. Il dit, les Sud-Américains, ils vont au tacle. Et il dit, dans le football, il y a trois règles au milieu de terrain. C'est un, il faut chercher le tacle. Deux, il faut trouver le tacle. Et trois, il faut y aller. Donc c'est sa règle de base qu'il a encore répétée là juste avant cette rencontre, et donc il espère une montée évidemment en gamme de l'Allemagne, mais notamment au milieu de terrain. Donc ça pose, parce que beaucoup de personnes pensaient que Goretzka allait être titulaire pour cette rencontre, pour justement densifier le milieu de terrain, peut-être à la place de Nmecha, peut-être à la place de Pavlovic qui a été loin d'être excellent lors du match précédent. Et donc on attend évidemment une réaction et une domination de l'équipe d'Allemagne, pas seulement technique, mais que surtout on ait une équipe d'Allemagne où on a le sentiment qu'ils ont envie. Et on sait très bien que les équipes sud-américaines, bah parfois, ça, c'est un peu délicat parce que physiquement, ils sont là, etc. Il ne faut pas leur permettre, comme le disait Jürgen Klopp avant la rencontre, il ne faut pas leur permettre, nous, les Allemands, de jouer bloc bas parce que ça leur permet de développer des choses, etc. Il faut leur piquer le ballon, les étouffer et, évidemment, espérer que la rentrée d'Undav, très efficace depuis le début de la saison, soit plus efficace, notamment dans les 16 derniers mètres.
Ouais, mais pour comme je disais tout à l'heure, Undav, on est très content. Bon, ok, quand il est entré, on l'a vu, il était bon, tout ça. Mais c'est pas le Messi, Undav. Undav, il sera bon, mais il va falloir que tout le reste de l'équipe sorte autre chose que la presta insipide vue contre l'Équateur. C'est comme tu l'as dit très bien, le milieu de terrain. Il va falloir que ce soit partout meilleur, en fait.
Oui, mais ça, on l'attend. On veut dire, au bout d'un moment, je veux dire, si l'Allemagne se fait éliminer par le Paraguay, t'as rien à faire à une Coupe du Monde. Au bout d'un moment, faut aussi être sérieux. T'as un standing qui s'appelle de l'équipe d'Allemagne. S'ils sont pas capables de passer le Paraguay, ben qu'ils restent chez eux. Au bout d'un moment, ça va.
En plus, le standing de l'équipe d'Allemagne sur les deux dernières Coupes du Monde, il avait pris une petite claque. Là, si sortir en 16e, qui est un tour en bois en plus rajouté. Non, je ne peux pas l'imaginer. Je suis désolé, Polo. Je ne peux pas l'imaginer.
De toute façon, la Coupe du Monde, elle commence en 8e. Hein. Là, c'est.
Exactement.
C'est les amis, on s'en fout tout ce qu'il y a avant. Hein.
C'est les appetizers. Juste un mot, Polo. Est-ce que ce que je disais tout à l'heure, là, moi, j'étais au stade, effectivement, sur le match contre l'Équateur, et j'ai été frappé de plein de choses et plein de problèmes que tu avais déjà évoqué, d'ailleurs, en partie pour certains, notamment sur Kimmich et autres. Bon, la charnière centrale, d'une part, je parle de Rudiger, mais je voulais parler de Neuer. Est-ce que le cas Neuer, le fait que Baumann soit sur le banc, est-ce que ça s'est évoqué beaucoup en Allemagne ?
Ben, c'était évoqué déjà lors de son retour, parce que on pourrait penser que tout le monde était content qu'un gardien du calibre de Neuer revienne, mais je rappelle, il y avait eu un sondage, donc plus de 100 000 personnes avaient voté en Allemagne. 37% des personnes étaient contentes seulement du retour de Manuel Neuer. Donc c'est pas un truc qu'on attendait.
Donc les Allemands connaissent le foot.
Ben non, mais la question n'est pas la question n'est pas qu'il est pas extraordinaire, etc., ou qu'il fait une boulette contre l'Équateur. La question, c'est pourquoi faire. Comment tu prépares l'avenir? Pourquoi tu fais la façon dont il est revenu, lui-même disant qu'il était à la retraite et qu'il reviendrait pas et qu'il était blessé tout le temps, etc. La façon dont c'est géré le cas Oliver Baumann qui a fait tous les matchs éliminatoires, etc. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un jeune. Il y a des très bons gardiens qui sont en train d'arriver là en Allemagne. On va les découvrir en Ligue des Champions notamment l'année prochaine. Mais le cas Urbi qui a été plus qu'un numéro 1 bis avec le Bayern cette année, même s'il fait partie du groupe, enfin il n'est pas officiellement dans le groupe, mais il est aux États-Unis. Personne ne comprend pourquoi on l'a pas pris comme numéro 3 et essayer d'en faire quelque chose. Mais il y a plein de choses comme ça. Il y a le cas Nmetschian encore une fois, il y a le cas de Florian Wirtz qui n'est pas bon depuis le début de la Coupe du Monde à l'image un petit peu de sa saison, il y a Moussiala évidemment qui n'est pas à 100%, le cas Kimmich au poste d'arrière droit qui refait polémique. Donc voilà, maintenant moi je vois comme un signe positif le fait qu'il commence à mettre Undav dans le 11 de départ parce qu'on en est là aujourd'hui quoi. Donc ça va être oui.
Je pense qu'on te retrouve après le match, bien sûr, pour analyser tout ça ensemble. Merci beaucoup.
Je te souhaite heureux dans une heure et demie.
Bah pourquoi? Bah non, ça commence en huitième. Mais ça commence en huitième.
Pardon de t'avoir dérangé.
Mais tu sais que ça va être.
Salut Polo.
En huitième, c'est plus de commencer.
Alors on va dire que je ne te souhaite pas triste.
Dans un instant, on laisse la place à Karen Galli, Maxime Chano, notamment pour le match. Merci Fabrice, Daniel, merci. Flo. La nuit de l'after continue. Attends, ne bougez pas, il y a les paris avant qu'on parte.
Ah. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Yoann Guillet pour les cotes, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Des cotes déséquilibrées entre l'Allemagne et le Paraguay. 1,33 la victoire de la Mannschaft. Le nul est à 5,30, le Paraguay est à 9. Je vois les Allemands se qualifier dans le temps réglementaire. Mais je vois les deux équipes marquées. Et ça nous permet de tripler la mise.
Très bien. Ouais, moi je... Undav décisif.
Undav okay. Décisif, c'est seulement 1,60. Buteur, il est à
2,15.
1,60. 1,60 décisif.
Ah ouais, t'es vraiment un gagne petite.
Ouais, un gagne petite.
Merci Yoann, les cotes à retrouver sur rmcsport.fr bien sûr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Incroyable.
Allez, à tout de suite pour le coup d'envoi d'Allemagne, Paraguay dans l'after et dans les nuits de l'after jusqu'à 5h du matin.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karim Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les nuits de l'After Foot avec cette Coupe du Monde 2026 qui continue. On est ensemble aux États-Unis en direct du New Jersey avec Maxime Chano. Ça va Maxime?
Salut Karine, salut à tous.
Bon, t'as misé sur le mauvais cheval là pour ce maillot parce qu'on rappelle que le Brésil finalement s'en est sorti face aux Japonais 2-1, donc Brésil qualifié pour les huitièmes de finale et tu as mis le maillot du Japon.
C'est vrai, je dois m'avouer vaincu, tout comme les Japonais, j'ai mis le maillot du Japon. C'est la première fois qu'une équipe perd lorsque je mets le maillot, mais pourtant ils étaient tout proches hein, les Japonais de battre le Brésil. Mais crédit à la deuxième mi-temps des Brésiliens qui ont su se réveiller et qui sont venus battre le Japon 2-1 et surtout qui se qualifient pour le prochain tour.
Et oui, les Japonais donc battu le Brésil, premier qualifié pour la suite de la compétition pour les huitièmes. On va savoir maintenant qui sera qualifié entre les Allemands et les Paraguayens. C'est la suite des 16e de finale, le deuxième match pour les 16e. On va tout de suite retrouver Aurélien Tirsin qui va nous faire vivre cette rencontre en direct de Boston. Salut Aurélien.
Salut Karine, salut Max, salut à tous, grand soleil à Boston, tout est réuni, le stade est magnifique et on a Denis Undav titulaire côté allemand,
et oui,
notamment
le meilleur buteur.
Côté de Wirtz, Sané, Havertz et Moussiala est sur le banc, pas assez physique selon son coach pour affronter les Paraguayens qui vont jouer là-dessus forcément sur l'engagement, parce qu'à part Julio Enciso et Miguel Almirón qui est revenu à Atlanta United en MLS, c'est vrai que c'est une équipe limitée techniquement. Et on va partir Karine sur l'hymne allemand, le Deutschlandlied, l'hymne donc de l'Allemagne pour ce match face au Paraguay. Les Allemands qualifiés en 16e de finale. L'hymne est passé, c'est désormais Republica Muerte pour les Paraguayens. L'hymne de ce petit pays d'Amérique du Sud. Anthem of Paraguay.
Suite à l'hymne paraguayen, Allemagne-Paraguay, c'est le 16e de finale de cette compétition. Le coup d'envoi dans quelques secondes à Boston.
Du 11 juin au 19 juillet, le meilleur du football revient sur Winamax. Choisis ton pari, buteur, résultat, score exact ou crée ton MyMax pour faire grimper ta cote. Et pour gagner plus souvent, profite de nos garanties exclusives. Tu es nouveau sur Winamax, ton premier pari est remboursé cash. Alors profites-en.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli. On est ensemble sur RMC pour vous faire vivre cette Coupe du Monde 2026, les nuits de l'after, vous le savez, avec les 16e de finale qui ont commencé aujourd'hui. Le premier match, eh bien, c'est le Brésil qui a tant souffert, le Brésil d'Ancelotti, mais les Brésiliens s'en sont sortis 2-1 au bout du temps additionnel face aux Japonais. Donc succès 2-1 et on va savoir maintenant qui sera le deuxième qualifié pour la suite de la compétition pour les 8e de finale entre l'Allemagne et le Paraguay. On est avec Aurélien Tiercin à Boston, avec Maxime Chanon. On rappelle, d'un côté on a le premier du groupe avec 6 points, ce sont les Allemands, et le Paraguay lui avait terminé 3e de son groupe avec 4 points. C'est vrai Maxime que là on a l'impression a priori que c'est moins équilibré. On aura un passionnant également Pays-Bas-Maroc dans la nuit. Là Allemagne-Paraguay, tu dis quoi? Avantage à la Mannschaft?
Oui, avantage à l'Allemagne, d'autant plus quand tu regardes un petit peu le 11 de départ. Alors sans manquer le respect bien évidemment aux Paraguayens, mais c'est vrai que c'est, on n'est plus du tout sur un cycle incroyable de la part des Paraguayens. D'ailleurs ils l'ont montré sur cette phase de poule. Alors ils ont malgré tout fini 3e et donc ils se sont qualifiés avec 4 points, mais c'était poussif. Alors que côté allemand, bah, écoute, une superbe équipe hein. La paire de centraux Rüdiger et Tah, et puis évidemment devant Havertz, Wirtz, Leroy Sané aussi, et puis surtout la rentrée dans le 11 titulaire de Undav, le super joueur de Francfort, l'ancien joueur d'ailleurs de l'Union Saint-Gilloise hein, qu'on connaît bien hein, qui avait très très
Stuttgart aujourd'hui un match
de la Belgique.
Stuttgart, qu'est-ce que j'ai dit?
Francfort. Ça reste en Allemagne, mais c'est pas le bon club.
Non, qui a fini d'ailleurs 25 buts, hein, il me semble, cette saison. En tout cas, un top joueur. Voilà, ça va être intéressant de le voir dans ce rôle de titulaire. Lui qui était un petit peu utilisé comme un joker de luxe depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est vrai que quand tu regardes le 11 de base, encore une fois, je le répète, mais c'est, voilà, il y a évidemment une grosse différence de niveau. Mais on sait aussi que dans le football, Karine, plus que dans aucun autre sport, le 11 de départ ne fait pas tout.
Après, et on va voir.
Matérialiser sur le terrain.
Effectivement. Aurélien, on est avec toi. On attend évidemment beaucoup d'Undav qui était le joueur qui sortait du banc et qui marquait. Il a notamment marqué 3 buts. Là, il se retrouve titulaire. On attend de retrouver aussi une Allemagne forte parce que c'est vrai que depuis 2014 et leur dernier sacre, ils nous ont quand même pas mal déçus. Donc là, on va voir si ce qui s'est passé face à l'Équateur est un mauvais souvenir. On rappelle, hein, ils menaient 1-0 face à l'Équateur. Ils ont été renversés et ils ont perdu ce match 2-1.
Mais c'est le premier match à élimination directe depuis la finale 2014, tout simplement parce que il y a eu 2018 et 2022, les deux premières éliminations au premier tour de l'histoire de l'Allemagne. Le creux a été long, a été énorme, et là il y a beaucoup de pression mine de rien sur l'Allemagne, parce que comme disait Max, qui a très bien bossé d'ailleurs, 25 buts, 14 passes décisives pour Denis Sundav cette saison avec Stuttgart. Ouais, là il y a la pression parce que si tu paumes contre le Paraguay qui a déjà baissé les chaussettes en avant-match, alors évidemment c'est du bluff, mais Gustavo Alfaro, le sélectionneur argentin du Paraguay, il sait que l'écart de niveau est abyssal entre les deux équipes. Ils vont essayer de les embêter en luttant, en se battant physiquement, notamment parce qu'ils ont des joueurs quand même forts dans la ligne arrière. Mais à part ça, l'Allemagne ne doit absolument pas trembler. Et il y a la pression pour Denis Sundav. Tout le monde le réclame en Allemagne. Il remplace Jamal Musiala. Donc là, il ne faut pas se tromper. Le décompte, les trois dernières secondes avant le coup d'envoi sous le soleil de Boston du deuxième 16e de finale. Allemagne, Paraguay, c'est parti. Julio Enciso, la star paraguayenne, transmet en retrait à Orlando Gil. Et match, d'ailleurs, on ne l'a pas dit encore, Karine, mais qui est capital pour nous, les Français, puisque c'est potentiellement, si les Bleus battent la Suède, c'est l'adversaire en 8e de finale. Premier ballon pour les Paraguayens. Julio Enciso, côté gauche, la fin de centre. Il va se mettre pied droit, il va frapper. Ça passe derrière les cages de Manuel Neuer, mais c'est contré par un Allemand. Et bien voilà, il y a un corner déjà pour le Paraguay après 22 secondes de jeu. Tout ce qu'on dit depuis le milieu d'après-midi peut voler en éclat directement parce que l'Allemagne a beau être archi favorite, voilà, il suffit d'une bonne accélération de Julio Enciso qui ne fait pas tout bien. On l'a vu à Strasbourg cette saison, mais qui là a bien enrhumé Joshua Kimmich. Ouais, il était là il y a quelques minutes, il est d'accord avec nous, je pense. Hein. C'était pas toujours du camp Enciso.
Oui, c'est vrai que Gilbert aimait beaucoup quand même tancer Enciso, même quand parfois il le faisait mentir avec certains buts ou certaines belles actions. On vient avec toi ce corner.
Et le corner depuis la gauche du terrain, Julio Enciso qui va tirer pied droit au deuxième poteau. C'est récupéré par les Paraguayens à la demi-volée. Heureusement pour l'Allemagne, il y a Félix Mecha qui se donne, qui contre le ballon. Et d'ailleurs avec un contre favorable, Manuel Neuer va pouvoir dégager son équipe. Bien voilà, la fébrilité allemande sur le premier coup de pied arrêté après 1 minute et 16 secondes de jeu. 0-0 entre l'Allemagne et le Paraguay.
Emmanuel Neuer aussi, hein, Maxime, qui est extrêmement critiqué. On rappelle qu'il est revenu, qu'il est sorti de sa retraite internationale. C'était la surprise de Nagelsmann. Finalement, il s'est retrouvé donc évidemment dans les buts à la place de Baumann. Et pour l'instant, on a bien vu sur cette phase de groupe, eh bien, que l'immense Neuer, il n'est plus aussi gigantesque et fabuleux qu'avant. Il a pris de l'âge et on l'a bien vu lors des trois premières rencontres.
Bah, tu l'as dit, hein, il fait son âge hein, maintenant. Hein. Il avait fait le choix de revenir en équipe nationale. Certains étaient un petit peu surpris de le voir titulaire dans les buts de la National Mannschaft, et c'est vrai que depuis le début de cette compétition, il n'a pas forcément convaincu. Voilà, ses plus belles heures sont certainement derrière lui. Maintenant, ça reste quand même un joueur d'expérience, et donc je pense que Nagelsmann a besoin aussi justement de ce genre de joueur pour essayer de mener cette équipe le plus loin possible, parce qu'on le sait, aujourd'hui les Allemands ont beaucoup à prouver, en tout cas parce qu'ils ont été, malgré tout, malgré leur statut, malgré leurs individualités, quand même assez poussifs dans cette phase de poule.
Oh, attention, il se fait manger Kimmich par Julio Enciso, le contre paraguayen. 2 minutes 20, 0-0, il accélère. Le Strasbourg joue à côté gauche, il y a Jonathan Tah, les Allemands sont revenus. Il essaye de dribbler, c'est compliqué. Enciso, il est entre 4 Allemands et c'est récupéré par Félix Mecha, le milieu récupérateur de Dortmund, sur le côté droit avec Kai Havertz, qui d'ailleurs, Max, se positionne plutôt en retrait par rapport à Denis Sundav. Sur la composition officielle, on voyait Sundav numéro 10 derrière Havertz, mais c'est plutôt l'attaquant d'Arsenal qui va tourner autour de l'attaquant de Stuttgart. 0-0, 3 minutes de jeu, mais on voit déjà les possibilités paraguayennes pour embêter l'Allemagne.
Je pense que la tactique paraguayenne est claire, hein. Ils vont essayer de profiter un maximum des espaces dans le dos de la défense allemande avec la vitesse justement d'Enciso, qu'on connaît très bien en Ligue 1 du côté de Strasbourg, et puis de Miguel Almirón. Pareil, le joueur d'Atlanta qui est revenu en MLS, qui a fait les beaux jours pendant quelques saisons de Newcastle. Et voilà, je le redis encore une fois, il y a beaucoup moins de qualité que dans les années précédentes côté paraguayen. Mais pourtant, pour autant, il y a quand même voilà, un peu de verticalité. Donc il faudra faire attention par rapport à ça côté allemand. Et puis je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à la situation d'Undav qui s'est positionné vraiment en tant que numéro 9 avec un Kai Havertz qui tourne un peu autour de lui, qui vient décrocher, qui vient chercher les ballons entre les lignes. Voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu aussi l'entente des deux Allemands ensemble.
Et attention, la blessure peut-être de Gustavo Gomez, le capitaine paraguayen. C'est le seul très expérimenté de la ligne défensive, 93e sélection aujourd'hui. Et j'ai pas bien vu l'action où il pourrait se blesser, mais il est toujours au sol, soigné par le staff paraguayen. Parce qu'à ses côtés, c'est José Canale, quatrième sélection simplement avec le maillot paraguayen. Donc ça pourrait être un gros trou dans la défense. Il s'est relevé, ça boite quand même bien bas de la jambe droite et on va attendre que le jeu reprenne. Il va devoir, comme c'est la règle, hein, désormais, sortir pendant une petite minute du terrain. La cinquième minute ici à Boston, 0-0 entre le Paraguay et l'Allemagne.
On vous rappelle qu'il y a déjà un 16e de finale qui a été joué. Le Brésil s'est imposé 2-1 face aux Japonais. Ça a été extrêmement compliqué pour les Brésiliens. C'était Sano qui avait ouvert le score côté japonais. Casemiro et Martinelli à la 95e minute qui ont apporté cette victoire. Un soulagement, on l'a vu, du côté de Carlo Ancelotti, évidemment, le sélectionneur brésilien qui était en difficulté. Neymar n'est pas entré dans ce match. Et puis là, actuellement, on est en train de vivre donc ce Allemagne-Paraguay. Et puis dans la nuit, il y aura également le passionnant Pays-Bas-Maroc. Mais là, ça se passe à Boston sous le soleil avec Aurélien Tirsin.
La cinquième, 0-0, les Allemands qui ont vite récupéré un ballon côté droit, mais la passe vers Undav de Kai Havertz n'était pas bonne. Là, on va filer côté gauche avec Pavlovic pour Florian Wirtz, les passements de jambes du milieu de Liverpool, le petit externe du pied vers Undav, le ballon qui va filer jusqu'à Kai Havertz, il peut se retourner pour Undav, la petite frappe, elle est manquée du pied droit, il a tenté une sorte de piqué, mais du plat du pied, ça fait une feuille morte à gauche des cages d'Orlando Hill, et le Paraguay va pouvoir se dégager. La sixième, donc toujours 0-0, la première grosse occasion. C'est un corner de la gauche du Paraguay qui a échoué avec un ballon au deuxième poteau et une parade de Manuel Neuer. Là, les Allemands ont repris le contrôle du ballon et Florian Wirtz, moi que je trouve de plus en plus intéressant quand même, on l'a beaucoup critiqué cette saison, mais je trouve que c'est l'Allemand le plus créatif et le plus dangereux, même contre l'Équateur. Là, il fait une bonne passe de l'extérieur du pied à Wirtz qui remet sur Undav et la frappe est donc à côté.
Ouais, Undav qui avait fait un déplacement très très intelligent. On parlait justement de l'association entre Havertz et Undav. Là, on vient de le voir exactement. C'est exactement la raison pour laquelle Nagelsmann les a alignés tous les deux. Et je suis d'accord avec toi par rapport à Wirtz qui est en train de monter en puissance. Mais comme beaucoup de joueurs, finalement. Parfois, on a tendance à être un petit peu dur avec certains joueurs parce qu'on en attend énormément. Et c'est vrai que c'est le cas avec Wirtz. Mais par rapport à ce qu'il a montré, en tout cas sur le match dernier, je trouve qu'en effet, il est sur une bonne progression. Et ça va être important d'avoir un grand Florian Wirtz pour que l'Allemagne puisse aller au bout de cette compétition.
Et Sané sur le côté droit qui échange avec Pavlovic, les Paraguayens bien regroupés désormais. On va repasser avec le capitaine Joshua Kimmich. Jonathan Tah sur le côté gauche pour Antonio Rudiger. On est à une quarantaine de mètres des cages paraguayennes d'Orlando Hill. On va aller chercher encore Florian Wirtz. Ils sont vraiment regroupés les Paraguayens, ils laissent de l'espace sur les côtés, ils sont dans la boîte. Le centre tir de Florian Wirtz, c'est le gros tacle défensif de José Canale. Ce sera un corner pour l'Allemagne depuis la gauche du terrain et c'est Joshua Kimmich qui va aller le tirer, mais c'est très dangereux de laisser Wirtz rentrer avec son pied droit et lui laisser techniquement de l'espace.
Mais d'autant qu'il y avait Kai Havertz qui avait fait le déplacement au deuxième poteau. Et en effet, si le défenseur paraguayen ne touche pas le ballon, je pense que l'attaquant allemand derrière aurait juste à eu pas du pied, ça aurait sûrement fait goal. Mais en tout cas, c'est très très bien joué ce centre-tir.
Et Gustavo Gomez qui est revenu sur le terrain, le capitaine paraguayen. L'autre capitaine, l'allemand, c'est Joshua Kimmich. Il va tirer le corner depuis la gauche du terrain. 7 minutes et 10 secondes de jouer désormais. 0-0 entre l'Allemagne et le Paraguay. Le vainqueur rejoindra la France ou la Suède en 8e de finale. Le joueur du Bayern Munich, habituel milieu récupérateur, qui doit se contenter du poste de latéral droit, qui va tirer ce corner. Deuxième poteau, il est tout seul. Jonathan Tah, la tête remise, c'est dégagé par les Paraguayens. Reprise de volée, de demi-volée de Florian Wirtz au niveau de la demi-lune de la surface de réparation. Ça s'envole dans les travées du Gillette Stadium, oui, de Boston. On en reste à 0-0.
Sans danger, effectivement, cette tentative lointaine. Au niveau du corps, on n'est pas bon.
Assez surprenant de le voir absolument seul à l'entrée de la surface de réparation. Il y avait eu un très très bon travail de Tah qui s'est retrouvé absolument aussi libre de tout remarquage, qui a essayé de remettre dans la boîte. Et derrière, c'est Wirtz qui doit mieux faire. Je suis d'accord avec toi. Son corps est un petit peu en arrière et le ballon en demi-volée qui s'envole très très au-dessus de la barre transversale des Paraguayens.
Dommage pour Florian Wirtz qui a été applaudi quand même par Nagelsmann, parce que lui aussi joue très gros, Aurélien, parce que Nagelsmann, s'il y avait une sortie prématurée face aux Paraguayens, on peut imaginer qu'il serait en grand danger au niveau de son poste de sélectionneur.
Ah bah c'est clair, là son contrat c'est jusqu'en 2028, mais c'est assez clair qu'il se ferait virer. Attention quand même au centre de la Leroy Sané, c'est contré par les Paraguayens et intelligemment Juan José Cáceres, le latéral droit, qui remet de la tête à son gardien Orlando Hill. Effectivement, si Nagelsmann sort en 16e de finale contre le Paraguay, a priori selon les médias allemands, ce serait terminé assez rapidement, malgré ce contrat donc qui court jusqu'en 2028, parce qu'après l'échec de l'Euro 2024, il avait dit on jouera le titre de champion du monde en 2026 et on en serait très 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 loin. Même si ça s'arrête contre la France, faudra voir la façon dont les Allemands perdraient. Alors c'est pas fait d'ailleurs, hein, parce que ça pourrait les relancer aussi de battre la France. Mais il y a beaucoup de choses à prouver de la part de l'Allemagne et de Julian Nagelsmann. 0-0 la 9e minute. Le ballon qui navigue toujours dans les pieds des attaquants allemands. On est dans la moitié de terrain paraguayenne. C'est le scénario qu'on attendait et qui se fait. Et Florian Wirtz qui perd le ballon face justement à Juan José Cáceres. Miguel Almirón qui essaie de se retourner et il est arrêté assez rapidement par les défenseurs allemands. Et il s'est peut-être même fait mal au niveau du tibia gauche. On va arrêter le jeu quelques secondes. Monsieur l'arbitre, Jalal Jayed, le Marocain, qui est au sifflet pour cette Allemagne-Paraguay. 0-0, 9 minutes et 30 secondes de jouer.
Ouais, gros tacle hein, du joueur allemand sur Almirón. Hein, Almirón qui est l'un peut-être des atouts majeurs de cette équipe du Paraguay. On l'a dit un peu plus tôt, lui qui est revenu en MLS. C'est assez surprenant de le voir de retour du côté d'Atlanta, d'autant que ça fonctionnait plutôt bien à Newcastle. Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais j'étais un petit peu déçu malgré tout son début de compétition, mais à l'image un petit peu de certains Allemands, on a parlé de Florian Wirtz un peu plus tôt. Il y a certains joueurs qui ont besoin de monter en puissance, malheureusement dans cette Coupe du Monde qui est quand même une Coupe du Monde assez rapide, il faut que les joueurs soient forts et en tout cas performants assez rapidement. Ça n'a pas été encore trop le cas d'Almirón. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui, mais en tout cas les Paraguayens vont avoir besoin aussi de sa qualité.
Allez, un peu d'espace pour les Allemands à droite avec Leroy Sané qui revient sur son pied gauche qui se réaxe. Antonio Rüdiger côté gauche, c'est vraiment toujours le même scénario pour le moment pendant ces 10 premières minutes à Boston. 0-0, on repasse par Pavlovic et Félix Mecha. Joshua Kimmich à pied gauche, là c'est compliqué d'aller chercher Florian Wirtz, c'est dégagé de la tête par Cáceres, mais il y avait un petit coup de petit coup de sifflet au départ de l'action, la faute de Julio Enciso sur Joshua Kimmich, et ça va donner un coup franc assez lointain. Là on est à une grosse quarantaine de mètres des cages d'Orlando Hill. Dans l'axe c'est compliqué, les Allemands ne montent pas forcément, on va jouer court justement avec Antonio Rüdiger. La circulation vers Florian Wirtz, la passe vers Undav qui laisse passer le ballon entre ses jambes. Il pensait avoir Kaya Wirtz dans son dos, mais ça va filer jusqu'à Orlando Hill qui prend son temps pour dégager. Bon, Karine et Max, je pense qu'on va avoir ce scénario qu'on connaît entre une grosse équipe et une plus petite. C'est de l'attaque défense et puis on essaie de trouver un espace. Bon là ça fait encore très peu de temps, donc ils sont concentrés. Les défenseurs paraguayens sont pas si concentrés parce que le ballon est récupéré par Undav. Il est pas dans son match pour l'instant, Denis Undav. Là, il essaie de remettre d'un petit extérieur du pied dans la course de Kaya Wirtz, mais techniquement, c'est pas bien fait. C'est dégagé de nouveau par les joueurs du Paraguay.
Ouais, alors qu'on voit la tactique paraguayenne très très claire, hein. Un bloc vraiment compact. Ils vont essayer de faire jouer les Allemands autour justement de ce bloc, hein. Ils ont laissé les ailes de libre avec en tout cas un axe du terrain quand même avec énormément de densité. Voilà, aux Allemands de rester patients. Ça ressemble un petit peu à la première mi-temps entre le Japon et le Brésil, où est-ce que les Japonais étaient très, très 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 bien en place, et pour autant le Brésil est resté patient. C'est ce que doivent faire absolument les Allemands, vraiment rester patients, essayer de jouer sur les ailes et en espérant évidemment concrétiser leurs occasions.
On rappelle côté allemand, Aurélien, il y avait eu le carton 7-1 face à Curaçao. Ça avait été un festival offensif. Puis la victoire 2-1 face à la Côte d'Ivoire et face à l'Équateur. Il y avait eu cette défaite 2-1 alors qu'il menait 1-0. Et que surtout, Neuer avait été fautif sur certains buts équatoriens et qu'il n'a pas en tout cas dégagé beaucoup de sérénité, le gardien du Bayern Munich. Donc à voir si ce soir, si les Paraguayens ont des occasions, il sera à la hauteur pour faire les arrêts qu'il faut. Et du côté du Paraguay, ça a été 4 points de prix, victoire face à la Turquie alors qu'ils étaient réduits à 10 pendant toute une mi-temps. On s'en souvient, hein, il y avait eu ce carton rouge avec Amiron qui avait masqué sa bouche, et c'est interdit depuis cette Coupe du Monde, donc il avait pris un carton rouge. Et puis il y avait eu également un nul pour terminer cette phase de groupe, donc le Paraguay avec 4 points qui a été au rendez-vous de ses 16e. Aurélien, on est avec toi.
Cáceres, le latéral droit qui est resté au sol, il a pris un petit coup de coude de Florian Wirtz. En tout cas il se plaint de ça, mais l'arbitre n'a pas sifflé, donc le jeu a repris et le ballon est redonné aux Allemands, à Antonio Rüdiger. On est dans la moitié de terrain de l'Allemagne. Tu le disais, Manuel Neuer qui avait pas été, bon, à minima pas fautif à 100%, mais il avait été un peu fébrile. En tout cas, quand il y a un gars comme ça qui a 127 sélections, pour l'anecdote d'ailleurs, 23e titularisation dans son histoire en Coupe du Monde, il dépasse Lothar Matthäus et Miroslav Klose, donc deux légendes du football allemand. Il devient seul tout en haut des Allemands titularisés en Coupe du Monde. On l'attendait plus au rendez-vous que ça. En tout cas, il faut qu'il aide plus cette équipe allemande sur le peu de situations qu'ils vont subir. Les Allemands à l'attaque, Sané sur le côté droit avec Alexander Pavlovic qui essaie de se mettre entre les lignes. Jonathan Tah un petit peu en retrait. Il y a Nathaniel Brown qui était offensif. Justement, il est trouvé par Florian Wirtz. C'est bien fait. Le centre du gauche et le gros retour de Miguel Almirón. Les Paraguayens, ils sont en 4-5-1, mais j'ai même l'impression qu'ils sont en 9-1. Il y a Avalos qui attend le ballon un petit peu devant, mais tous les autres défenseurs et milieux sont vraiment dans la boîte, dans la surface de réparation. Très très peu d'espace. Et là, nouveau corner donc de la gauche pour les Allemands avec Wirtz qui attend peut-être une petite passe de Joshua Kimmich. Non, finalement, il va s'éloigner. Ça va être dans la boîte directement, alors que les Paraguayens sont à 10, puisque Juan José Cáceres ne peut pas encore rentrer sur la pelouse. Ça va pouvoir être un avantage pour les Allemands en supériorité numérique avec le corner de Joshua Kimmich. Deuxième poteau, c'est au-dessus de la tête de Jonathan Tah, et il y avait un coup de sifflet de toutes les manières pour une faute d'un attaquant allemand sur le gardien paraguayen. Le premier quart d'heure de jeu 0-0, c'est pas du total régal pour le moment, mais les Allemands, comme tu disais Max, vont devoir être patients et attendre une petite fenêtre pour se mettre en position de tir.
Exactement, il va falloir que les Allemands soient patients, et on comprend mieux hein, quand on voit un petit peu le bloc paraguayen, pourquoi Nagelsmann a décidé de titulariser Unda, pour mettre un peu plus de densité justement dans la surface adverse. Voilà, il va pas avoir énormément d'occasions côté allemand, va falloir, je le répète encore une fois, mais qu'il les concrétise. Mais ce qu'on a vu en tout cas sur les 15 premières minutes, c'est clairement dans le rapport de force l'Allemagne qui est devant. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai bon espoir en tout cas de voir les Allemands gagner, Karine.
Donc toi, tu préférerais que ce soit les Allemands qui
Je préférerais que le Paraguay passe, parce que je pense bien évidemment à l'équipe de France derrière, mais quand tu vois un petit peu sur ce qu'ils nous ont montré là sur les 15 premières minutes, voilà, je vois mal le Paraguay.
Et taper les Allemands en max, c'est toujours sympa.
Ouais, c'est toujours sympa.
Calme-toi quand même, Aurélien. Je te rappelle qu'en 2014, hein, on s'en souvient encore, c'est la dernière fois qu'on les a affrontés en Coupe du Monde, et c'est eux qui sont passés.
Ben oui, mais justement, pour une fois que ils ont peur de nous, faut en profiter. Là, a priori, on a le vent dans le dos. C'est plutôt eux depuis 10 ans qui ont la pression maintenant. Mais voilà, aussi pour le sel d'une Coupe du Monde, hein, France-Allemagne, c'est bon. Allez, on va se rappeler France-Paraguay éventuellement, mais bon.
Bah moi, France-Paraguay avec le but sympa, en or de Laurent Blanc, c'était magique. Hein.
Attention à l'Allemagne.
Enfin, non, t'étais peut-être trop jeune, quoi.
Non, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, je m'en rappelle. Il faisait chaud.
T'es vieux, finalement.
Oui, malheureusement. Et on a le même âge avec Max. On est né la même année. Si je dis pas de bêtises, 89.
C'est bien ça. Tu vois, t'as l'air un peu plus vieux que moi, quand même.
Je m'entretiens un peu moins physiquement.
Vous avez des maillots de foot comme toi. Vous avez un peu le même style. Vous êtes très maillot de foot tous les deux.
Ah, ben c'est la Coupe du Monde qui veut ça.
Non. Exactement. Ah, la rédac, j'aime bien.
Ça, il a tout le temps.
Ah, d'accord.
Tu le vois pas, la rédac, en France?
Si, je le vois, mais bon, pour moi, en ce qui me concerne, les maillots de foot.
Oui, parce que c'est voilà. Mais Aurélien, lui, il achète un maillot à chaque fois qu'il va en déplacement s'il a pas le maillot d'une des deux équipes. C'est bien ça, Aurélien.
Exactement. Exactement. Mais d'ailleurs, moi, je suis très déçu 0-0 entre l'Allemagne et le Paraguay, 16 minutes. Les Américains, ils sont forts en tout. Le MLB Store, il est magnifique. Le NBA Store, bon, il est un peu moins bien, mais il est sympa quand même. Il y a tous les maillots de NHL. Il n'y a pas un satané magasin où on peut acheter n'importe quel maillot de Major League Soccer. Je trouve ça dingue. C'est difficile de trouver des beaux maillots de Major League à New York.
Je te donnerai les adresses.
Je veux bien. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont magnifiques et c'est pas si simple. Je trouve qu'en MLS, ils sont un peu en retard là-dessus. Le centre de Florian Wirtz, l'appel en tout cas, de Denis Sundav, et le ballon vitré récupéré, c'est dans le dos Wirtz par Miguel Almirón, mais la touche est quand même paraguayenne, ça s'embrouille entre les deux joueurs. La touche sera donc pour l'équipe sud-américaine sur le côté droit, et là ils prennent déjà leur temps. Ça fait 17 minutes de jouer, ils l'ont promis hein, on va jouer dur, on va jouer physique, on va jouer regroupé en défense. C'est exactement ce qui se passe depuis 17 minutes. 0-0.
Ils l'ont compris. Quand techniquement tu peux pas te battre sur le même tableau, c'est-à-dire le Paraguayen vis-à-vis des Allemands, ben écoute, essaie de jouer différemment. Et tu l'as dit, ils sont durs dans les duels, ils gagnent un peu de temps. Ça peut même être frustrant hein, pour les Allemands hein, de jouer contre ce genre d'équipe. Mais voilà, ça fait aussi partie du jeu, faut l'accepter. Et c'est aux Allemands surtout de rester intelligents, disciplinés pour pas tomber dans le jeu des Paraguayens.
On vous rappelle que pour l'instant, oui, vas-y.
Non, vas-y. Moi, j'allais raconter ma vie, hein, le match. Hein.
Ce qui est pas mal aussi. On rappelle donc à nos auditrices et à nos auditeurs que pour l'instant il y a 0-0 entre les Allemands et les Paraguayens. On va parler également aussi de l'équipe de France, parce que demain c'est l'événement sur RMC, coup d'envoi à 23h juste à côté au MetLife Stadium pour ce France-Suède. On le rappelle, 16e de finale, les Bleus qui ont fait le plein lors de la phase de groupe. Et Maxime, on va parler d'un homme, Saliba, parce qu'il nous inquiète forcément un petit peu. Alors il a été ménagé lors du 3e match face aux Norvégiens. Il y avait aujourd'hui une conférence de presse et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a été interrogé sur son défenseur central et son dos. On l'écoute.
William va bien. Il a son souci de dos qui date pas d'aujourd'hui. Il y a un protocole qui est mis en place. Je fais en sorte chaque jour de discuter avec lui. C'est aménagé pour le décharger de certaines sollicitations. Mais il va bien. Qu'il soit pas à 100%. S'il est à 99, ça va. Sur les matchs, ça va. Le fait qu'il ait pu souffler le troisième, c'était important aussi. Il a évidemment un travail avec le staff médical différencié. Mais c'est pas quelque chose qui le mine et qui l'empêche de jouer libéré comme il a pu le faire sur les deux premiers matchs.
Ça veut dire quoi, Maxime? On est sur un fil avec Saliba, parce que Rabiot a été aussi interrogé. Il a dit j'espère qu'il pourra tenir le rythme. Alors évidemment, il nous a rassuré en disant que pour l'instant, ça s'était bien passé. Mais on a l'impression que quand même, Saliba, c'est l'homme qui peut soit nous faire basculer évidemment dans une très bonne Coupe du Monde, soit qui peut nous mettre en grand danger si malheureusement, eh bien, il venait à être sorti en cours de match ou à être forfait sur une rencontre. Toi, t'es inquiet quand même par rapport à toutes ces questions qui entourent Saliba, et même Deschamps le dit, tu vois, il dit bon, 99%, ça ira, on doit le gérer, on doit le...
Non, mais il y a une réalité, Karine, c'est-à-dire que Saliba a eu une très très longue saison du côté d'Arsenal, et que ça soit en Première Ligue ou alors en Coupe d'Europe, et aujourd'hui il est arrivé avec cette blessure au dos. Alors j'aurais été inquiet s'il n'avait pas joué les deux premiers matchs, et notamment s'il était sorti en cours de match contre l'Irak. Je me souviens que Deschamps avait fait un sacré turnover, il avait laissé Saliba d'ailleurs pendant les 90 minutes, j'avais été assez surpris, et puis derrière il a pu le ménager, le faire souffler contre la Norvège. Donc non, je suis pas inquiet. Les blessures font malheureusement partie du football et les petits pépins physiques, et c'est le cas avec Saliba. Mais combien de joueurs finalement jouent à 100% dans ce genre de compétition? Très peu, Karine. Donc non, il y a eu justement ce match pour le faire souffler, je le répète, contre la Norvège. C'est vrai que si Saliba devait être absent, c'est pas forcément le joueur en lui-même, mais c'est vraiment la doublette avec Upamecano qui fonctionne bien, donc ça risque d'être préjudiciable pour cette équipe de France. Mais voilà, j'ai confiance en Didier Deschamps et en son staff, ils savent ce qu'ils font, et je serais pas étonné de voir Saliba titulaire, en tout cas, contre la Suède, et de voir surtout un grand Saliba. Voilà.
C'est attendu demain face à la Suède. Le fait qu'il ait ces douleurs de dos, est-ce que ça a aussi une incidence par rapport à l'adversité, si elle est beaucoup plus rugueuse, si il a des attaquants beaucoup plus compliqués à devoir gérer ou pas?
N'importe quelle blessure est toujours un petit peu handicapante. Après, ce qui se passe dans ce genre de situation, t'as le sélectionneur qui vient voir le joueur et qui lui demande si oui ou non il est en mesure de pouvoir tenir sa place. Et à partir du moment qu'il a dit qu'il est capable de jouer, mais derrière tu peux plus te cacher derrière les pépins physiques ni même les douleurs. Maintenant j'ai aussi confiance en Saliba. On parle vraiment d'un match de Coupe du Monde avec une élimination à la clé si l'équipe de France devait perdre. Donc voilà, si il y avait le moindre doute sur lequel il n'était pas en mesure de pouvoir jouer, j'imagine que le joueur dirait à Didier Deschamps qu'il n'est pas en mesure de pouvoir tenir sa place. Derrière il y a quand même un joueur qui s'appelle Lacroix qui a été très performant à chaque fois qu'il est rentré en équipe de France. Pareil pour Konaté, même si c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile pour lui individuellement parlant. Mais voilà, Saliba c'est ce qu'il fait. L'équipe de France a un staff de qualité, donc je ne serais pas étonné de voir un grand Saliba, en tout cas s'il devait être aligné, comme on l'a dit, sur le prochain match.
On reparlera de l'équipe de France. Juste deux mots concernant le groupe France. Didier Deschamps a confirmé le forfait de l'attaquant Marcus Thuram, et il y a également un doute concernant la possibilité de voir ou pas N'Golo Kanté dans le groupe, mais ce sont deux joueurs qui ne sont pas actuellement au premier rôle et très impliqués dans les matchs, donc de toute façon voilà, ce serait des forfaits de moindre importance. On retourne à Boston avec Aurélien Tirsain. On rappelle donc pour l'instant, entre les Allemands et les Paraguayens, il n'y a pas de but, mais c'est effectivement les Allemands qui ont eu plus le ballon que leur adversaire.
Ah oui, ça doit être une horreur d'être paraguayen. Je crois qu'Andrés Kubas, je ne l'ai pas cité une seule fois. Je sais pas s'il a touché un ballon 0-0, 22 minutes. Là, il y a eu un frissonnet, un ballon perdu par Kimmich devant Mathias Galarza, autre joueur d'Atlanta United d'ailleurs en MLS, mais bon, il y avait faute au départ. Ouais, il y a aussi Kubas qui joue à Vancouver. C'est ça. Et voilà, dans le 11, il y a que les trois. Mais ouais, Almiron, Kubas et Galarza.
Mais c'est dire un petit peu justement le niveau quand même de cette équipe paraguayenne, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, parce que je défends très très souvent la Major League Soccer, mais tu peux absolument pas comparer la Major League Soccer avec les grands championnats européens. Et quand tu regardes un petit peu le 11 titulaire allemand et le 11 titulaire paraguayen, sans manquer de respect encore une fois à l'équipe sud-américaine, mais il y a quand même une grosse différence de niveau.
Oui, bah d'ailleurs il y a le hydration break. On va se ressourcer pendant 2-3 minutes entre l'Allemagne et le Paraguay 0-0. Mais c'est vrai qu'à part les joueurs qui jouent en MLS, il y en a 3 aussi qui jouent en Argentine. Dans le championnat argentin, il y en a pas mal qui jouent au Brésil. Et bah c'est pour ça que la star c'est Enciso et il ne joue que entre guillemets au Racing Club de Strasbourg. On embrasse les Strasbourgeois, mais bon voilà, c'est à l'époque du Paraguay 98, il y avait un Roque Santa Cruz. Exactement, bah comme la moitié des clubs de Ligue 1, non, si je dis pas de bêtises.
C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, alors qu'il y a des reprises qui auraient dû être effectives. On rappelle que le Paris FC, ben on ne sait pas non plus, hein, c'est quand même très flou. Marseille, on attend toujours Genesio, Monaco, enfin voilà. C'est quand même assez hallucinant, on est tous focalisés sur la Coupe du Monde, alors qu'il y a évidemment une préparation à faire, notamment pour nos clubs de Ligue 1, même si la Ligue 1, elle reprend un petit peu plus tardivement cette année. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Ah ouais. C'est très
mais Karine, ne me reparle pas du Paris FC Brest que je vais devoir commenter en août, j'ai pas envie d'y penser maintenant, là. C'est laisse-nous tranquille 5 minutes.
Enfin Aurélien, tu adores ton pain quotidien, non? Oui. T'as vibré combien de fois avec le Paris FC? Beaucoup cette saison, dis donc. De quoi tu
parles? Bah oui, mais on va nous enlever Antoine Comboiré, donc on va voir ce que ça va donner.
La tristesse. Bah écoute, ça a été décalé d'une semaine, on sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir encore un énième revirement de situation.
Ouais. C'est souvent le cas hein, d'ailleurs hein, pendant les grandes compétitions. Et quand t'es joueur et que tu sais qu'il y a soit un euro, soit une Coupe du Monde pendant l'été, c'est toujours un peu stressant parce que les clubs, en règle générale, eh bien, attendent la fin des grandes compétitions pour pouvoir bouger. Donc il y a beaucoup de joueurs qui restent sur le carreau en attendant que la compétition se termine. C'est un peu le cas des entraîneurs, c'est, en effet, cette saison dans notre très chère Ligue 1 qui vont sûrement devoir attendre un petit peu la fin de cette compétition, de cette Coupe du Monde 2026 avant qu'on puisse voir du mouvement.
C'est un bazar absolu effectivement en Ligue 1. Il y a beaucoup donc de clubs qui n'ont pas encore officialisé leur entraîneur. On suivra ça bien évidemment et toutes les informations sur rmcsport.fr. On vous rappelle que pour l'instant entre l'Allemagne et le Paraguay il y a 0-0. On est à la pause fraîcheur, vous êtes sur RMC, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.